Exactement 8h02 à Bukavu ce dimanche 16 août 2026. Vous suivez donc l'émission Paix et Développement, mise en onde de Jean-Claude Ndagué. Devant ce micro pour la présentation expédie qui a le menu de l'émission de ce jour, la coalition de l'opposition congolaise C64 passe à une nouvelle étape dans sa démarche visant à obtenir la convocation d'un dialogue national en République démocratique du Congo. Réunie hier samedi 15 août, la plateforme de l'opposition a annoncé l'organisation d'une marche pacifique le 15 septembre prochain à Kinshasa. Cette décision intervient après l'expiration de la date butoir fixée par la C64 au président Félix Tshisekedi pour convoquer le dialogue national. Selon cette coalition, aucune réponse favorable n'a été enregistrée à son appel avant l'échéance du 15 août. Cette démarche s'organise le 15 septembre à l'ouverture de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Elle est particulière parce qu'en plus d'élaborer la loi des finances, elle va réexaminer la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. En effet, dans un communiqué officiel publié jeudi, le bureau de la Chambre basse du Parlement annonce qu'il inscrira une nouvelle délibération de ce texte à son calendrier des travaux sur demande du président de la République. Que signifie ce retour en arrière? Pourtant, la loi avait déjà reçu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. Pouvons-nous dire que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est le maître du jeu et du calendrier? L'opposition dispose-t-elle d'une marge de manœuvre suffisante pour bloquer la manœuvre du pouvoir? Nous en parlons avec des analystes dans l'émission Paix et Développement de ce jour. Vous nous écoutez dans la ville de Bukavu sur 88.8, dans les territoires sur 91.7, partout au monde, en ligne sur Internet, en tapant le www.radiomandeleo.org. Merci infiniment pour votre attention soutenue.
Bwana means hello, mister. Swahili ni rahisi. It's no tongue twister. No problem. Hakuna matata. Welcome, friend. It's karibu rafiki. Let's have some chai with lots of iliki. No problem. Hakuna matata.
Merci donc à vous, chers auditeurs, pour l'attention que vous nous démontrez. Surtout, excellent dimanche, bon week-end. Partout où vous écoutez la radio. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel des nouvelles avant d'ouvrir le chapitre débat d'émission de ce jour. C'est depuis plus de 4 jours que les abonnés des différentes maisons de communication observent des changements importants dans le système de tarification des forfaits Internet. D'une part, il s'agit d'une hausse des forfaits Internet et de la réduction du temps de leur validité. C'est par exemple chez Airtel où le forfait de 1 giga jadis validé pour 48 heures est désormais réduit à 24 heures. C'est plein des abonnés. D'autres témoignent avoir constaté l'expiration de leur forfait avant le temps indiqué. Ils estiment que les consommateurs ne devraient pas être surpris par des tarifs inadaptés habituel et plus cher. D'autres modifications se sont également fait observer chez Orange. Vodacom et Africel confirment les consommateurs qui estiment que cette hausse de prix des forfaits Internet intervient pendant que la population de l'Est de la RDC traverse déjà d'énormes défis économiques liés à la guerre. Ils plaident pour l'implication des autorités compétentes afin d'alléger la souffrance des consommateurs et appellent la Ligue des consommateurs des services au Congo Kinshasa Likoski à saisir les instances habilitées pour remettre la population dans ce droit. Et en moins de 3 semaines, soit du 27 juillet au 13 août, dans la ville de Bukavu, plus d'une centaine de maisons ont été détruites, tout touchées par le feu. 59 ateliers sont partis en fumée. Des commerces et des salles de classe ont été affectés, avec également des pertes en vies humaines. Ces incendies ont principalement frappé la commune d'Ibanda, précisément les quartiers Panzi et Dendere. Plusieurs familles se retrouvent aujourd'hui sans abri, tandis que près de 320 artisans ont perdu leurs outils et leurs moyens de subsistance. Le premier sinistre a été enregistré le 27 juillet dans le quartier Panzi sur l'axe Mbeke Avenue Longangi, où plus de 20 maisons ont été ravagées par les flammes. 2 enfants âgés de 4 et 6 ans y ont perdu la vie. Le 10 août, un autre incendie a détruit plus de 38 maisons sur avenue Mama Yemo, toujours à Panzi. 2 jours plus tard, le 12 août, plus de 40 autres maisons ont été ravagées dans le quartier de Ndéré, notamment sur les avenues Anciens Combattants 3 et 2. La série s'est poursuivie le 13 août avec 2 nouveaux incendies à Panzi, 8 maisons ont été détruites sur l'avenue Moulamba Solidarité dans l'axe Mouchounounou. Le sinistre le plus important est celui enregistré à Ndendere sur l'avenue industrielle. Au niveau de la Confédération mondiale des artisans CMAIC, 59 ateliers ont été réduits en cendres. Ce sinistre a aussi touché 5 maisons commerciales ainsi que des habitations environnantes. Les flammes se sont propagées jusqu'à l'épée Matendo, affectant au moins 4 salles de classe, selon le constat fait au terme d'une descente sur le terrain. Des équipements de menuiserie, de plomberie et d'électricité, des postes à souder, ainsi que des machines utilisées pour la fabrication des gouttières ont été détruits. Selon le secrétaire de la Confédération mondiale des artisans, Namuto Babunga, et lui-même victime de l'incendie, près de 320 artisans sont concernés par ce sinistre. Il affirme que le feu serait parti d'une boulangerie voisine avant de se propager rapidement aux ateliers de la CMA. Et il y a eu un autre incendie. En fait, 2 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans un incendie qui a ravagé plus de 100 ménages dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h du matin à Tchimpouidji, sous village de Nyamira, dans le groupement de Moudous. Le bilan provisoire fait état de plus de 100 ménages réduits en cendres. Plusieurs habitations ont été détruites, tandis que certaines maisons ont dû être démolies pour empêcher la propagation des flammes. Et l'épidémie d'Ebola en RDC fait un mort toutes les 30 minutes, a alerté vendredi 14 août le chef des affaires humanitaires de l'ONU, appelant la communauté internationale à se réveiller et à se mobiliser. Ebola est en train de gagner du terrain en RDC. Nous ne pouvons pas laisser le virus dépasser notre riposte, a déclaré Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires de l'ONU, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'urgence avec les responsables des agences onusiennes. La RDC a déclaré le 15 mai une épidémie d'Ebola. 3 mois plus tard, la réponse sanitaire peine encore à rattraper le virus. Les structures de santé du pays, parmi les plus pauvres au monde, souffrant d'un manque général de moyens. Et le conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, salue les avancées enregistrées dans le processus de paix dans l'Est de la RDC. Dans une déclaration publiée samedi sur son compte X, le responsable américain a fait état de la tenue les 12 et 13 août à Genève de la 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Je cite, je salue les derniers progrès réalisés dans le processus de paix dans l'Est de la RDC, alors que nous menons les efforts visant à parvenir à une stabilité durable dans la région, fin de citation, a déclaré donc Massad Boulos. Selon lui, cette rencontre a réuni des représentants de la RDC et du Rwanda, ainsi que des délégations des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine. Les participants se sont accordés sur la nécessité de faire progresser les initiatives visant à renforcer le suivi et la vérification de la mise en œuvre des accords de Washington sur le terrain. Et le député national Teungwa Bijekasi, ancien gouverneur du Sud-Kivu et élu du territoire d'Idjui, a rendu public le 13 août dernier une contribution intitulée « Dialogue national, ma réflexion pour une paix durable, une cohésion nationale renforcée et une restauration effective de l'autorité de l'État ». L'élu d'Idjui salue l'initiative du président de la République qu'il présente non comme un aveu de faiblesse, mais comme la volonté d'explorer toutes les voies pour mettre fin à une guerre menée depuis 2021 par les forces armées de la RDC face à la rébellion de la SAM-23 soutenue par le Rwanda, un effort qui a mobilisé d'importants moyens financiers, diplomatiques et militaires. Il souligne qu'au-delà du lourd bilan humain, ce conflit mobilise des ressources qui pourraient autrement accélérer la transformation socio-économique du pays. Rappelons que la RDC a connu moult dialogues et accords en 3 décennies, souvent suivis d'une paix éphémère sans refermer le cycle des crises à l'Est. Le député national appelle à regarder au-delà du dialogue lui-même vers une paix effective en s'attaquant aux causes profondes plutôt qu'aux conséquences de la crise. Donc il précise qu'il faut s'attaquer aux causes profondes plutôt qu'aux conséquences de la crise. Teungwa Bidje formule 5 priorités pour la réussite du processus, définir les objectifs clairs couvrant les dimensions politiques, sécuritaires, économiques et morales de la crise, faire de la participation des principaux acteurs, y compris ceux qui influencent directement la crise sécuritaire, le premier indicateur des succès, en évitant de reproduire les consultations et à précéder le gouvernement Soumino à 2, placer au centre les vécus quotidiens des déplacés du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Litouri. Considérer la paix comme un accélérateur du programme présidentiel en 6 piliers et anticiper l'après-dialogue par un calendrier, une institution responsable et un mécanisme de suivi. Avait donc savoir l'élu Didjui et ancien gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bidje Kasi. Enfin, la communauté Banyamulenge demande que justice soit rendue en faveur des victimes du massacre de ses membres survenus en 2004 à Gatumba au Burundi. Cette demande vise notamment à préserver la mémoire des victimes, établir les responsabilités et lutter contre l'impunité. Message lancé lors d'une activité organisée pour commémorer les 22 ans depuis que ce drame a été enregistré. Pour Rune Zeroa Vincent, vice-président de la mutualité Shikama de la communauté Banyamulenge à Bukavu, cette commémoration a été une occasion d'honorer la mémoire des victimes et de rappeler les conséquences de ces violences. L'activité a réuni plusieurs personnalités autour de la nécessité de préserver la mémoire des victimes, de promouvoir la justice et de renforcer la paix et la cohabitation entre les différentes communautés, indiquent les organisateurs. Nous accueillons dans ce studio certains invités. Blaise Maseka, qui est acteur politique, il est membre du FPCN. Blaise Maseka, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Maendeleo, bonjour aux amis au studio.
Nous accueillons dans ce studio Joseph Mushengero, qui est analyste indépendant. Joseph, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour aux co-débatteurs. Je vous remercie Expedi pour l'invitation.
Nous accueillons dans ce studio les chefs des travaux, Milenge Zirizi Kijan, coordonnateur adjoint du COREP RDC. Monsieur Rizi Kijan, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci. Le COREP est honoré par l'invitation de la radio Maendeleo.
Merci beaucoup. Hamza Routega, il est cadre de l'AFSAM 23 et membre de la cellule de communication au gouvernorat de province. Hamza Routega, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Expedi. Bonjour à tous les amis qui sont en train de nous suivre partout dans la province ici Kivu. Bonjour également à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent rejoindre la révolution qui est en cours menée par l'AFSAM 23. Et merci pour l'invitation.
Hamza, vous revenez fraîchement du territoire de Walungu pour une mission d'itinérance effectuée par le gouverneur de province sous la FCM 23. Quel a été votre constat sur le terrain et quelles activités ont été menées sur place?
Oui, effectivement, nous étions en délégation avec son Excellence Monsieur le Gouverneur depuis le lundi de la semaine qui vient de s'achever. Et nous étions à Walungu. C'est dans le cadre de la politique de proximité. Et parce que, comme vous le savez, l'AFSM 23 a mis en place cette politique-là, mettant les dirigeants et les dirigeants ensemble. Et donc, l'autorité a décidé de ne plus rester dans son bureau, climatisé à Nyamoma, ici à la Botte, pour effectuer des descentes dans des territoires. Donc, après Calais, c'était le tour du territoire de Walungu et jusqu'à Mwenga, parce que nous avons également été à Mwenga avec le gouverneur des provinces. Et ce qu'on a constaté, effectivement, on a constaté qu'il y a encore certaines parties du territoire où la manipulation continue à amener certains jeunes à toucher les armes, à circuler avec les armes, partout là, qui s'appelle des Wazalendo, qui, malheureusement, au lieu de sécuriser ou approcher leurs semblables, ils les tracassent, ils les font souffrir énormément. Et là, l'autorité provinciale s'est mise à échanger avec certains seigneurs de guerre, certains Wazalendo, les a sensibilisés en leur demandant de déposer les armes. Et effectivement, il y a une centaine de Wazalendo qui ont compris les messages et qui ont déposé, en tout cas, les armes. Et certains sont restés dans les coins, qui ont dit qu'ils doivent continuer à sensibiliser les autres avant que l'opération de traque ne commence. Parce que maintenant, l'État ou les mouvements doivent amener à ces jeunes-là qui continuent à détenir illégalement les armes. En tout cas, les mouvements sont en train de réfléchir comment les traquer par force. Mais ceux qui sont en train de déposer ça volontairement, ceux qui continuent à nous amener, qui déposent, ils sont protégés. Et ceux qui choisissent de rejoindre ou de faire l'armée, on les amène à Mangabo, à Tchanzu, pour qu'ils soient formés, qu'ils soient des bons militaires, des militaires disciplinés. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent rester ou continuer dans la vie civile, ils sont là, on continue à les former, on continue à les sensibiliser pour qu'ils puissent rester avec la population.
Hamza, au-delà des aspects sécuritaires, avez-vous constaté combien la route nationale numéro 2 est délabrée et qu'est-ce que vous comptez faire pour la remettre en état?
Et tout à fait, je dois vous signaler qu'à partir de mise en garde, comme vous maîtrisez les coins, mise en garde, c'est dans le groupement de Moulamba, en tout cas l'autorité provinciale avec les ingénieurs mis en disposition par les mouvements, ils sont là à pied d'œuvre en train d'amener des travaux, c'est-à-dire en train d'enlever les boubiers, en train de rendre, au fait, la route praticable. Et sans surprise, nous avons été honorés par la présence également du secrétaire permanent, qui est également le chef de notre exécutif, le camarade secrétaire permanent Benjamin Bonipa, qui était sur place, à Chibarama, il a été à Mushinga, il a été à Kanyola, où on a échangé avec la communauté locale. Et la communauté a exprimé effectivement cette volonté-là, que les mouvements puissent investir dans les actions de développement. Et c'est par là que les autorités ont promis que dès la semaine prochaine, donc à partir de cette semaine, qu'on va commencer ici, les travaux vont commencer. Les travaux, parce que l'AFCM 23 ne promet pas, on a demandé à ce qu'on va débuter les travaux ici incessamment. Et ces travaux consistent effectivement à terrasser ou à rendre praticable la route. Pas des grands travaux d'asphaltage, pas encore, mais on va devoir rendre praticable la route en question.
Merci.
Et à Chibarama, je dois signaler que l'autorité provinciale n'y est pas partie, mais vite. Il y a un transformateur de 100 KVA qui a été installé et remis à la population de la localité de Chibarama. Là, Chibarama, c'est dans le groupement de Walungu, donc de Walungu Centre, où l'autorité provinciale a installé pour amener au fait qu'il y ait des indicateurs de développement dans les milieux. Parce que vous pensez que quand il y a l'énergie électrique, quand il y a du courant, en tout cas, c'est toutes les activités qui sont mises en marche. Et aujourd'hui, Walungu peut se flotter la main parce qu'il y a déjà la lumière qui est là. Il y a la population a crié qu'il n'y a pas d'eau, effectivement, également. Et on a promis que d'ici peu, l'eau peut commencer à couler dans les robinets, dans tout Walungu.
Merci beaucoup pour cette actualité que vous essayez de développer à la faveur des auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Ouais.
Blaise Maseka, vous avez suivi l'actualité qui est dominée dans la ville de Bukavu par les incendies à répétition en cette période de la saison sèche. Vous avez également suivi que les tarifs ont été revus à la hausse des services des maisons de communication. Vous étiez derrière une lutte à un moment donné, voulant c'est que les sociétés de télécommunications rabaissent le coût des tarifs et consorts. Vous avez suivi également que l'épidémie d'Ebola ne fléchit pas en République démocratique du Congo, même si la situation semble être maîtrisée dans la province du Sud Kivu. À ce stade, quel commentaire faites-vous de l'actualité?
Merci beaucoup, Expedi. Vous avez commencé par les incendies. Je dois d'abord présenter toute ma compassion à toutes ces familles victimes des incendies à répétition dans la ville de Bukavu, tout en sensibilisant les uns et les autres à prendre des mesures préventives pour pallier à pareilles éventualités. Mais je fais un constat depuis un temps, c'est que je ne sais pas si Hamza peut nous en dire plus. Dans le passé, on a vu quand même que quand il y avait des incendies, l'autorité compétente, l'autorité du milieu, faisait quelque chose en faveur des victimes. Mais sous l'AFCM 23, je n'ai jamais vu une seule assistance de l'État ou de l'autorité compétente en faveur de ces victimes. Je pense que l'AFCM 23 doit aussi jeter un regard ou prioriser ces aspects liés au social, à l'assistance des victimes des différentes catastrophes, le cas échéant. Vous avez aussi parlé de maisons de télécommunications et vous avez rappelé qu'à un certain moment nous étions dans une lutte, quand surtout qui visait la maison de télécommunications Airtel. Et là, je dois avouer que nous avions même tenté de faire une marche pacifique pour dénoncer. D'abord, à son temps, c'était la qualité du réseau qui était une qualité médiocre. Il y avait aussi le problème des transferts d'argent. Il y avait le problème aussi du coût des services. Et là, je suis très sidéré de revoir que ça recommence. Et depuis un temps, peut-être nous allons reprendre la démarche, parce qu'à son temps, nous avions écrit au maire de la ville, Ladislas Muganza, qui avait... pour l'informer d'une tenue d'une marche, mais il avait refusé. Mais j'ai trouvé que depuis un temps, l'AFCM 23 autorise les marches pacifiques. Nous allons réécrire une fois de plus pour informer, parce que nous sommes dans un régime d'information, et demander que l'autorité sécurise une pareille manifestation pacifique visant à réclamer les droits. Parce que vous savez, le droit reste droit quand il est réclamé. Mais aussi, il y a un autre problème. Vous avez parlé de la correspondance de l'honorable Teongo Abidje Kassi. Il faut préciser qu'il est élu de la circonscription électorale d'Idjwi. J'ai lu avec intérêt cette correspondance et je trouve que dans sa forme et dans son fond, c'est une correspondance d'actualité qui tombe à point nommé, et parce que vous avez bien insinué que l'honorable Teongo Abidje a été aussi gouverneur de la province du Sud-Kivu pendant 5 ans. Je dois le rappeler. Et quand on est gouverneur d'une province comme le Sud-Kivu, il y a des choses qu'on maîtrise plus que d'autres personnes qui vivent à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Le gouverneur au moins a toute la situation à mettre, la situation sécuritaire. Il connaît les acteurs, il connaît les enjeux, que ce soit les enjeux locaux, les enjeux sous les journaux, etc. Voilà pourquoi nous, on a toujours insisté que quand on parle de la crise actuelle, parce que ça affecte plus les Nord et les Sud que vous, il faudra que Kinshasa associe tous les anciens gouverneurs de ces provinces encore vivants, parce qu'ils sont des ressources humaines à capitaliser. Ils comprennent la situation, ils ont de la matière plus que tout le monde. Voilà pourquoi nous encourageons l'honorable Teongo Abidje Kassi, et c'est pourquoi, dans le même ordre d'idées, je vais parler d'un contrôle citoyen qui a été mené par le groupe élite du Kivu, parce qu'on a semblé faire un constat selon lequel, depuis le début de la guerre, les élus du peuple, qu'ils soient ceux de Kinshasa ou ceux qui sont à Ouvira, les députés provinciaux, ils ont tendance à se désengager de leur mission. Je ne sais pas s'ils pensent que la guerre que nous traversons aujourd'hui, c'est un alibi pour eux demain de justifier leur inaction par rapport aux missions régaliennes qui sont les leurs. Et les missions d'un député sont connues. Il y a d'abord la mission de représentation, parce que quand le peuple est élu, il te donne un mandat de représentation. Quand vous êtes là à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale, vous devez légiférer, proposer et voter les lois. Vous devez contrôler l'exécutif. Mais aussi, il y a une autre mission qui revient d'ailleurs dans la mission de représentation. C'est celle de rendre compte. Et rendre compte suppose garder la proximité avec votre base. Vous ne partez pas à Kinshasa, vous ne partez pas à l'Assemblée provinciale pour ne plus revenir et recueillir les désidérata de votre population ou savoir ce qui se passe dans votre base ou participer tant soit peu aux difficultés et apporter des solutions au niveau de la base tant qu'on peut les faire. C'est ce que moi j'appelle la mission sociale d'un député. Un député, dans la loi, il n'est pas interdit à un député de participer à une initiative locale de développement, etc., etc. Surtout que eux, je sais qu'ils sont parmi les plus bien traités sur le plan salarial de tous les fonctionnaires de l'État. Il n'est pas interdit qu'un député, s'il y a par exemple un projet d'escalier dans un quartier, comme nous sommes dans un État qui ne fait pas son travail, un député peut continuer par un sac de ciment, fer à béton et consort. Il n'est pas interdit. Donc voilà pourquoi nous, on a le groupe élite du Kivu, a classé quand même, a fait un exercice de classer 10 meilleurs députés de la session de mars. Ça, je dois préciser. Nous avons commencé par la session de mars 2026. Et l'objectif était de créer une certaine émulation parmi nos élites. Et l'exercice va continuer jusqu'à la fin du mandat. Donc à chaque session, nous allons désormais évaluer député par député, circonscription par circonscription, pour savoir, vous avez voté combien de lois, vous avez initié combien d'actions parlementaires, est-ce que les vox pop dans votre base, ça, c'est le rôle des médias que vous êtes.
On a récolté plusieurs critiques de cette initiative, nous les avons constatées, notamment sur les réseaux sociaux, les gens s'interrogent et veulent savoir quels sont les critères que vous aviez mis au devant pour sélectionner les 10 estimant que certains peut-être se sont manifestés à travers des œuvres caritatives auxquelles vous faites allusion, ou peut-être des initiatives, mais vous ne les avez pas placées sur votre publication.
Au fait, j'étais très content des réactions qui ont fusé de partout, et ça démontre en suffisance l'intérêt que cet exercice suscite dans l'opinion, et nous, on reste ouverts à toutes les observations, à toutes les remarques, à toutes les critiques, pourvu qu'elles soient positives et constructives. Il y a ceux qui sont partis dans le sens négatif, mais nous remercions tous ceux-là qui ont apporté d'autres inputs pour qu'on améliore à la session ou à la phase qui va suivre. Je salue d'ailleurs la rigueur avec laquelle le chef de travaux, Jean-Marie Vianney Kazumuzimwa, a dirigé ce jury. Vous parlez des critères, je venais de le dire tantôt. Nous sommes partis des critères qui rentrent dans les missions régaliennes d'un député. Et je dois préciser que ces 32 députés nationaux du Sud Kivu, nous avons eu accès quand même à 27. Nous n'avons pas eu accès à 5 autres. Et ils nous ont fermé leurs portes, ils n'ont pas pu communiquer leurs données. Mais aussi, une autre source d'information, c'est le site même de l'Assemblée nationale. Tout le monde peut y aller, le site s'appelle Talatala, où on poste toutes les actions de chaque député. Et les 10 là, je me permettais expédier, si je peux lire leur nom et dire
combien rapidement, de rapidement,
très rapidement. Par exemple, dans les territoires de Fizi, moi je dois dire que la liste qui circule, elle est alphabétique. On ne l'a pas classée selon le nombre, mais elle est alphabétique. Par exemple, dans le territoire de Fizi, Bassosi Ioube Théophile, il a proposé pendant cette session une loi, il a fait une action parlementaire et il a pris la parole 6 fois à la plénière. Il y a Bayosize Mouini Vital de Calais qui n'a pas proposé une loi, mais il a fait 3 actions parlementaires et il a pris la parole 17 fois. Il y a Tizungu Ntabomba Landry, le prof Tizungu qui est élu de Bukavu, qui a fait une proposition de loi, il a fait 3 actions ou contrôle parlementaire et il a pris la parole 5 fois. Il y a Lutala Kitumaini Ndevirira Didier de Calais, aucune loi, mais 3 actions parlementaires et il a pris la parole 5 fois. Il y a Lutala Mutiki Trésor Elie de Mwenga, il a une proposition de loi, il a 12 actions parlementaires à son action et il a pris la parole 20 fois. Il y a Matabaro Césaire de Walungu qui a une proposition de loi qui tend à ériger l'anglais en langue officielle, comme deuxième langue officielle de notre pays. C'est une loi d'actualité aussi. Le contrôle parlementaire, il en a fait 3 fois, et puis il a pris la parole 2 fois. Il y a Misare Mugombero Claude qui est élu d'Uvira, qui a 3 projets de loi qu'il a déjà proposé pendant cette session, il a 22 actions parlementaires à sa charge et il a pris la parole 27 fois. Il y a Ngwabije Kasiteo, qui fait parler de lui-même et son document encore vient après la publication de notre exercice citoyen. Je pense qu'on va intégrer aussi son document ici dans les prochains tours, donc la session de septembre. Il a une proposition de loi visant la réforme des FRDC. C'est aussi une loi d'actualité. Il a 4 actions parlementaires à sa charge et il a pris la parole 3 fois. Il y a Soumaïli Miseka Emile, il est de Chabunda. Il n'a aucune loi, mais il a 4 actions parlementaires. Il a pris la parole 25 fois. Et enfin, nous avons Wenda Mukangwa Placide, il est aussi de Chabunda. Il n'a pas une loi. Il a une action parlementaire à sa charge, il a pris la parole 9 fois.
Merci
donc,
beaucoup.
Comme vous pouvez le constater, toutes les circonscriptions électorales, les 9 ont fait l'objet de notre enquête, mais il y a une circonscription qui est absente.
Merci.
C'est la circonscription électorale de Kabare.
Merci.
Voilà pourquoi nous encourageons les élus de Kabare de quitter leur profond sommet pour qu'en session de septembre, ils puissent...
Même s'il faut rappeler que la population du Sud Kivu veut entendre les élus du Sud Kivu sur les questions d'intérêt social, notamment
la question
de la paix, la question de la paix, la question de la sécurité et tous les restes. Merci beaucoup à vous, Blaise Maseka. Joseph Mushengero, quel commentaire faites-vous de l'actualité?
Je vais commencer d'abord pour ce que Blaise Maseka vient de dire. Lorsque il fait son observation, comme quoi il y a l'absence du mouvement, comme il vient de poser la question.
Dans les actions philanthropiques après les incendies.
Lorsqu'il y a les cas d'incendie. Mm-hmm. En tout cas, comme il est d'élite du Kivu, ils doivent plutôt envisager d'autres mécanismes pour pouvoir permettre la ville de respirer. Vous savez, dans certaines avenues de la ville, des fois quand il y a des incendies, il y a des problèmes de circulation, même de piétons. De sorte que si le pouvoir en place peut vouloir voler au secours, mais il y a vraiment
les accès dans les avenues et les quartiers
pour arriver là.
À cause d'abord de la démographie, peut-être des constructions anarchiques.
Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas intervenir, mais il faut voir s'il y a des conditions et d'accès pour le faire.
Donc pour vous, ils doivent s'appesantir également sur les aspects en amont, c'est-à-dire les facteurs qui occasionnent les incendies.
Tout à fait. Des fois, il y a des mauvaises constructions qui sont à la base de tout ce qui arrive là. Mm-hmm. Est-ce que pourquoi, comme l'AFCM 23 est là, et c'est un mouvement qui prône le changement, au lieu d'intervenir toujours dans des camps comme ça, pourquoi l'AFCM 23 ne peut pas penser à des innovations, pour faire des lotissements, pour que la ville puisse respirer. Et lorsque le cas arrive comme ça, qu'il y ait la facilité d'intervention. Et des fois, vous savez, si vous êtes bien rangé, et si l'incendie arrive, ça peut commencer et terminer là-haut. Il a commencé. Mais si les gens sont entassés comme des sardines, des circulations larges,
l'impact
même
de l'incendie est toujours considérable.
Voilà. Et je pense, comme élite du Kivu, ils doivent aussi penser à ça et conseiller au pouvoir, au lieu de rester seulement pour condamner, il faut mettre des mécanismes de prévention. Voilà.
Merci beaucoup. Nous vous disons merci. C'était Milé Ngezi, votre commentaire de l'actualité.
Merci, j'ai suivi tout ce que vous avez donné en termes d'actualité. Alors, vous savez que le COREP est beaucoup plus intéressé par la question du changement de la Constitution, qui depuis un certain temps, 2 ans d'ailleurs, fait bouger vraiment la classe politique congolaise. Mais aussi au niveau provincial ici, comme on venait de le dire, on ne peut pas fermer les yeux à tout ce qui se passe, les incendies, tout. Et depuis un temps, nous avions dit que ce phénomène-là n'est pas nouveau dans la ville de Bukavu. Il appartient tout simplement aux autorités de prendre les décisions qui s'imposent. Nous savons tous que dans le passé, il y a des erreurs qui ont été commises et la population ne peut compter que sur ces autorités pour que tout cela soit corrigé. Et donc, on ne sera pas là tout le temps en train de dire il n'y a pas accès. Alors, s'il n'y a pas accès, il faut que l'autorité fasse pour qu'il y ait cet accès-là, en désengorgeant peut-être la ville pour dégager les différents sentiers, les différentes voies d'accès. Alors, par rapport au changement de la Constitution, comme nous l'avons dit, le COREP...
Nous allons évoquer le changement de la Constitution tout à l'heure dans notre sujet principal que
nous
avons
donc déjà. Je réserve cela à ma deuxième intervention.
Merci beaucoup.
Oui, et j'avais une réaction expédie, c'est par rapport à ce qu'a dit Blaise Maseka. qui pensent que l'AFCM 23 n'assiste pas les victimes de certaines catastrophes ici dans la ville de Bukavu. Mais il faut que je lui rappelle qu'il n'y a pas des semaines que l'autorité provinciale, le gouvernement de province, avec une grande délégation, était à Kachoucha, pour doter des concessions aux victimes de catastrophes naturelles qui a eu lieu ici à côté à Mbobero, à Elakat, depuis un certain moment. Et là, parce que la vision de l'autorité, c'est de désengorger David Bukavu. Et c'est pourquoi il a beaucoup insisté, c'est pourquoi il a beaucoup mis en place des mesures, cherché à décourager des constructions ou des nouvelles constructions dans la ville de Bukavu. Et donc, les amis qui ont subi ce genre d'incendie, il faut voir les causes, comme l'a dit le doyen Joseph. Mais le grand problème, c'est quoi? L'autorité assiste ces gens-là, mais pas en termes d'assistance sociale et des pacotilles ou des façades. Donc on vient, on vous donne un sac de riz, on vous donne, je ne sais pas, des biscuits, des bidons vides. Mais après un temps, vous restez dans les mêmes conditions. Et demain encore, qu'il y ait répétition des incendies. Et donc l'autorité lui a jugé, comme il y aura des nouvelles constructions, ces nouvelles constructions dans des sites qui ont subi ce genre d'incendie, il y aura des équipes qui seront sur le terrain pour voir est-ce que cette fois-ci, on ne va pas construire les mêmes maisonnettes qui étaient sur les sites-là. Et là, ceux qui n'auront pas trouvé de place, ils seront délocalisés ailleurs dans des sites qui sont, je ne sais pas, qui ont été localisés ici à côté à Kabare, à Nyantende. Donc c'est ça, au fait, la philosophie et la politique de l'autorité. C'est pas venir tromper la population avec des choses éphémères. Mais nous devons chercher, au fait, des actions durables à ces problèmes pour que les problèmes puissent plus se répéter.
Merci beaucoup. 8h39 minutes, nous ouvrons la partie débat de l'émission de ce jour. La coalition C64 passe à une nouvelle étape dans sa démarche visant à obtenir la convocation d'un dialogue national en RDC réuni samedi 15 août. La plateforme de l'opposition a annoncé l'organisation d'une marche pacifique le 15 septembre à Kinshasa. Cette décision intervient après l'expiration de la date butoir fixée par la C64 au président Félix Tshisekedi pour convoquer le dialogue national. Selon cette coalition, qu'une réponse favorable n'a été enregistrée à son appel avant l'échéance du 15 août à l'issue de sa réunion tenue samedi au siège du parti politique de Jean-Marc Kabound à Kabound. La C64 a ainsi décidé d'intensifier la pression à travers une mobilisation populaire. La manifestation annoncée pour le 15 septembre devrait notamment servir à dénoncer ce que la coalition qualifie de manœuvre visant à maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. La C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes de mobilisation le 15 septembre 2026. Elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national, indique la déclaration lue par Jean-Marc Kabound, président du parti ACH. Pour la C64, l'absence de convocation du dialogue au terme du délai fixé marque un tournant dans son combat politique. La coalition entend désormais mobiliser ses militants et sympathisants afin de faire entendre ses revendications dans la rue. La date du 15 septembre s'annonce ainsi comme une nouvelle échéance politique à Kinshasa, alors que les appels au dialogue national continuent de s'inscrire au cœur des débats entre le pouvoir et une partie de l'opposition. À la conclusion du communiqué sanctionnant la rencontre de la C64 hier à Kinshasa, il a été dit pas de troisième mandat pour Félix Tshisekedi 2028 Alingate à Kokende, fait à Kinshasa. Pour la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, Martin Fayoulou empêché, Jean-Marc Kabound présent a signé, Moïse Katumbi empêché a été représenté, Augustin Matata Pogno a été représenté, Delice Sessanga a participé physiquement à cette réunion. Pendant ces temps, la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC devrait revenir sur la table de l'Assemblée nationale lors de la session de septembre prochain. Dans un communiqué publié jeudi, le bureau de la Chambre basse annonce qu'il inscrira une nouvelle délibération de ce texte à son calendrier des travaux. Cette décision fait suite à une demande du président de la République, Félix Tshisekedi, adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat par une lettre datée du 10 août 2026. Le chef de l'État sollicite, conformément à l'article 137 de la Constitution, une nouvelle délibération de la loi sur l'organisation du référendum. Cette démarche intervient après l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 28 juillet saisie par le président de la République, la Haute Cour avait déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, tout en formulant des réserves concernant plusieurs de ses dispositions. Dans son communiqué, le bureau de l'Assemblée nationale explique que cette nouvelle délibération vise précisément à intégrer les clauses interprétatives formulées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt. Le dossier sera donc inscrit au calendrier de la session ordinaire de septembre. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le processus législatif entourant cette loi qui fait depuis plusieurs mois l'objet d'une importante controverse politique en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous gardons dans ce studio Blaise Maseka, Joseph Mushenge, Roam Zaroutega et le chef des travaux Milingezi Riziki Jean. C'était Milingezi. Quelle analyse faites-vous dans un premier temps de la position adoptée par la coalition Article 64 qui annonce une série d'actions et déjà en perspective d'ici là, dans moins d'un mois, il est prévu une marche sur l'ensemble du territoire national et précisément à Kinshasa, une marche qui aura pour point des chutes le palais du peuple à l'occasion de l'ouverture de la session de septembre.
Merci pour la question. Je dois tout d'abord signaler que le COREP n'est pas membre de la C64, mais tout simplement le COREP partage la même lutte avec la C64, c'est-à-dire la lutte qui vise à protéger l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. Alors, et le COREP étant très loin des institutions, parce que nous savons que la proximité compte, et donc, le COREP comptait beaucoup plus sur les actions de la C64 et qui pouvait facilement bouger le pouvoir en place hein, et faire comprendre aux hommes du pouvoir que ce qu'ils sont en train de faire ne correspond pas, disons, à ce qui est prévu par la loi dans notre pays. Mais malheureusement, le constat est amer parce que nous avons constaté que la C64 est maintenant perdu entre son objectif initial et les ambitions de certains de ses membres. Nous devons rappeler ici que l'objectif principal de la création de la C64, c'était uniquement lutter pour préserver l'ordre constitutionnel. La question du dialogue n'était pas dans les objectifs de la création de la C64. Et d'ailleurs, nombreux ont constaté qu'après un certain moment, il y a eu même des contradictions au sein même de la C64. Il y a eu des reports et on s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer le 15. Mais malheureusement, le 15 août est arrivé et maintenant c'est une prochaine marche
qui est prévue au 15. Vous le dites, l'ADN dans la construction ou même dans la création de la C64, c'était justement de barrer la route au projet de changement de la Constitution, mais s'engager dans les démarches du dialogue. Vous estimez que c'est passé à côté, mais si on sait obtenir le blocage au projet de changement de la Constitution via le dialogue, pourquoi ne pas saisir cette brèche? Est-ce qu'il faut toujours tout casser, c'est-à-dire organiser des marches quand il y a des voies pacifiques pour obtenir un résultat?
Bon, vous savez qu'en politique, on ne se fait pas confiance. Mmh. Et le constat sur le terrain est qu'ils se sont laissés jouer. Mmh. Ils ont en face un pouvoir qui n'est pas aussi bête qu'ils peuvent s'imaginer. Mmh. Le pouvoir est en train de jouer sur le temps.
Parce qu'ils ont été saisis par l'ECC et la SANCO.
Mais si on demande de qui?
Dans cette dynamique de l'organisation du dialogue, au terme d'une rencontre avec le président de la République, pour vous, est-ce qu'il fallait coûte que coûte casser, c'est-à-dire organiser des actions qui allaient aboutir à la fragilisation, par exemple, des activités à Kinshasa, ou peut-être à plusieurs blessés, à des gens qui auraient perdu la vie, si par exemple la voie du dialogue leur a été proposée, et bon, on sait quand même que l'interlocuteur en face, c'est quand même un interlocuteur sérieux, à savoir l'Église et, l'ECC et la SANCO.
Vous savez, le problème c'est que quand vous parlez de tout casser, on n'a jamais organisé une marche pour casser. Mm-hmm. La marche de l'opposition...
Donc on connaît comment ça finit, non?
Non, c'est pas toujours comme ça. Mm. Okay? La marche de l'opposition, c'est une forme d'expression. Mm-hmm. Okay? C'est-à-dire l'opposition n'a pas dit nous allons organiser une marche pour casser. Mm-hmm. Nous allons organiser une marche pour manifester notre opposition au changement de l'ordre constitutionnel. Mm-hmm. Et là, nous devons être très clairs. Mm-hmm. Pas seulement parce que la situation avait évolué, ce n'est pas seulement le changement de la constitution qui mettrait à mal l'ordre constitutionnel. Mmh. Ok, et je m'arrête par là. Mais quand on parle de protéger l'ordre constitutionnel, cela s'étend même au-delà du changement de la constitution.
Mais l'effet direct, c'était le changement direct. C'est donc l'effet domino qui pousse la C64 à se constituer. C'était d'abord le changement de la constitution.
Non, c'était ça l'élément motivateur.
Justement.
Mais ils avaient compris qu'il y a au-delà. Mmh. Ok, qu'il y a au-delà.
Nous revenons sur votre idée initiale. Ouais. Vous disiez que la C64 est perdue.
Elle est vraiment perdue. Mmh. Ok, elle est vraiment perdue.
Comment vous analysez la position qu'elle a adoptée, celle d'hier, celle annonçant une manifestation pour le 15 septembre?
Bon, nous ne pouvons que les encourager. Mmh. Nous ne pouvons que les encourager. C'est par cette voie aussi que le COREP peut faire pression sur le pouvoir. Nous n'avons pas un autre mécanisme, malheureusement. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager la C64 à maintenir la pression sur le pouvoir jusqu'à ce que le pouvoir comprenne que l'ordre constitutionnel ou, de manière simple, le changement de la constitution ne doit pas être à l'ordre du jour en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup.
Mais seulement la crainte. Mm-hmm. La crainte, parce que vous verrez que lorsque la loi était déposée pour la première fois à l'Assemblée nationale, mm-hmm. c'était autour du 8, mm-hmm. mais la marche était prévue au 12, mm-hmm. okay? C'est-à-dire au-delà. Et donc, le pouvoir aussi est en train d'observer les dates fixées par l'opposition, et à ce moment-là, le pouvoir prend aussi d'autres dates. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'opposition vient d'annoncer la marche au 15 septembre. Mm-hmm. Nous pouvons être étonnés, avant le 15 septembre, On relance les débats sur l'Assemblée nationale et on intègre les corrections et puis ça passe.
Non, c'est pas
normalement.
Ils ont ciblé le 15 parce que c'est le 15 qui constitue la date de l'ouverture de la session de septembre. Bien sûr, elle est essentiellement budgétaire, mais la Chambre peut également examiner certaines matières jugées essentielles et urgentes. Quoi.
Nous savons comment fonctionnent les institutions de la République démocratique du Congo. Mmh. Ils répondent parfois à des ordres qui ne viennent. Bon, donc, ça, c'est ce qu'ils disent. Mmh. Mais ils peuvent faire autre chose.
Merci
nous
beaucoup.
Savons notre pays.
Merci. Joseph Mushenge, est-ce que vous trouvez dissuasive l'action envisagée par l'opposition, cette marche du 15 septembre prochain à Kinshasa? Kinshasa essentiellement parce que c'est le siège des institutions, mais c'est une marche qui va avoir lieu sur l'ensemble du territoire national.
Oui, Expedi, tout ce que le gouvernement de Kinshasa ou le pouvoir de Kinshasa fait, l'objectif est d'échanger la constitution. Mmh. Et tout ce que l'opposition aussi fait, c'est pour barrer la route à ce projet-là. Mmh. Et tout le monde, et le pouvoir, et l'opposition, les soubassements, c'est toujours la même constitution. Mmh. Chacun s'est dit, ce que je fais, c'est au nom de la constitution le permet. Mmh. Et l'autre dit, c'est la constitution aussi qui me permet de barrer la route à toute tentative visant à changer cette constitution. Mmh. Mais le problème qui est là, on va voir celui qui aura l'argument fort pour convaincre la population à le faire. Mmh. Parce que les actions là, de la société civile ou de l'opposition, peuvent barrer la route, peuvent contraindre le président à changer ses projets. Nous devons savoir expédier. Et nous le savons d'ailleurs déjà que le pouvoir de Kinshasa est déterminé vraiment à changer la constitution. Mmh. Et ce projet évolue bien pour eux, comme vous venez de le dire, que la Cour constitutionnelle a jugé le projet de loi référendaire conforme à la constitution, tout en émettant bien évidemment d'importantes réserves sur plusieurs articles, ce qui a fait que le président de la République, chef de l'État, renvoie encore ce projet au Parlement pour une nouvelle délibération en fait d'intégrer les observations de la haute juridiction. Tout ça, c'est dans le processus normal, selon la Constitution. C'est dans le circuit normal. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a d'autres pays africains qui ont réussi à le faire, qui avaient des constitutions et qui ont proposé le changement de la constitution et ils ont réussi à le faire. Et d'ailleurs, c'est parmi les exceptions du pouvoir qu'ils avancent. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Mais nous devons montrer que le Congo, ça ne sera pas facile. Il faut même dire que c'est difficile, c'est impossible même. Ça ne peut pas passer et ça sera une exception congolaise et qui fera l'histoire dans notre démocratie. Parce que vous voyez, même avant, Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui, il ne doit pas oublier que il est venu aussi de l'opposition. À son temps, il disait ne touchez pas comme les autres à notre constitution. Aujourd'hui, vous voyez l'opposition qui se met ensemble autour de la C64. Mais si vous lisez bien cet article 64, vous allez trouver que c'est tout le monde à la longue qui va adhérer à ça. Parce que l'article 64 de la Constitution donne à chaque citoyen congolais le devoir de faire échec à quiconque s'empare du pouvoir par la force ou exerce en violation de la loi fondamentale. Il consacre également les droits de résistance du peuple face à toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Vous comprendrez que, à la longue, même si mon ami ici du COREP dit qu'il ne fait pas partie de la C64, heureusement qu'il connaît ce que dit la loi, l'article plutôt 64, vous allez voir à la longue que ça ne sera pas seulement l'opposition et la société civile, même d'autres personnes, d'autres Congolais, quand ils vont comprendre, ils vont aussi adhérer à ces démarches. Il ne faut pas aussi oublier qu'à l'est du Congo, il y a la guerre, il y a la FCM23. Lorsque vous dites à des actions qui peuvent dissuader le pouvoir de Kinshasa, il n'y a pas seulement les actions de l'opposition non armée, et il faut voir aussi les actions de la FCM23 qui a pris les armes devant cette ras-le-bol qui est, n'est-ce pas, générale. Il y en a qui disent, moi, je vais descendre dans la rue pour manifester. Il y en a d'autres qui disent, ça ce n'est rien comme Hamza ici. Ils vont dire, tout ça, vous allez seulement consommer des lacrymogènes et ça va rester comme ça. Moi, je prends les armes. C'est un exemple concret.
Pour vous, c'est-à-dire, au-delà des actions qui sont initiées à Kinshasa, le rapport des forces sur le terrain dictera la suite des événements.
La combinaison de tout ça. C'est ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, vous allez voir, au nom de cet article 64, et même les gens qui ne sont pas alignés dans une ou une autre association, comme COREP, comme Élite de Kiev, comme les autres, quand ils vont comprendre, ils vont descendre à l'image de Burkinabé. Il faut, en 2014, par exemple, au Burkina Faso, vous pensez que la population a fait la descente dans la rue pour chasser le président? Non. C'était seulement une manifestation comme à l'accoutumée pour faire entendre le président d'échanger ses projets aussi de la Constitution. Comme aujourd'hui nous disons l'article 64 et il disait je crois l'article 37. Et lorsque ils ont vu que il y a la résistance aussi des services de l'ordre, ils ont changé chemin faisant la destination pour dire, d'ailleurs, ça ne nous n'allons pas nous limiter seulement ici, nous allons aller jusqu'à chasser le président. Blaise Compaoré a fui comme ça. Donc, quoi d'anormal si cette situation persiste comme ça? vous allez trouver par exemple les Congolais descendre. Je venais de dire ceux qui ont pris les armes. Ici, il y a l'AFC M23 qui est connu. Peut-être à la longue, vous allez voir d'autres groupes armés naître, soit à l'ouest. L'histoire se répète. Dans le temps, nous avions les RCD à l'est et nous avions les MLC à l'ouest. Et c'est comme ça que naissaient d'autres groupes armés ou d'autres mouvements politicaux armés pour chasser le pouvoir de Kinshasa. Peut-être cela, si réellement Tshisekedi continue avec ses projets de changement de la constitution, les gens ne vont pas croiser les bras et les gens vont se soulever et chacun selon qu'il trouve bon pour trouver la solution. Qui peut dire moi je veux prendre les armes, les autres moi je veux descendre et les autres, et plus vous descendez, il y aura des incidents qui vont renforcer la détermination de ceux-là qui vont dire nous allons mettre fin à ça. Imaginez-vous la fois passée, Fayoulou était blessé. Imaginez-vous si Fayoulou serait mort, que serait-il arrivé ou que serait-il passé dans ces conditions-là? Ça pouvait être catastrophe et ça pouvait changer la donne et la manière de réclamer ces droits-là. Voilà.
Merci beaucoup. Hamza Lutega, vous également, quelle analyse faites-vous de l'extérieur? Certes, vous n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes ici dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous avez entendu l'opposition congolaise. Certes, vous n'êtes pas les mêmes et vous partagez certaines des aspirations de la C64, bloquer le projet de changement de la Constitution.
Non, au fait, moi je suis le plus heureux d'entendre que nous tous sommes en train de parler peut-être le même langage. Mais le problème, c'est au niveau de l'action. Nous menons des actions différentes. Oui. Et pourquoi nous menons des actions différentes? Parce qu'il y a certains qui ont compris qu'on faisait face à un sourd-muet. Et à un sourd-muet qui est en train d'amener, au fait, les pays dans le chaos, et monsieur qui a armé les civils, et monsieur qui a amené tous les Kuluna, qu'il appelle, qualifié aujourd'hui. Et c'est ça la malignité de Félix. Quand il prend les civils, les voleurs, les...
Le président de la République.
Quelle République? Parce que la République aujourd'hui...
Il faut qualifier avec des égards quand même.
Non, on ne peut pas...
Un peu de cohérence dans votre façon de
considérer. En fait, expédie. Nous considérons que c'est un président de la République.
Mais le président de la République.
J'ai dit que c'est un président de la République. Mais on ne sait pas...
C'est le président de la RDC jusqu'à preuve du contraire.
J'ai dit bien que c'est un président de la République, comme vous le dites. Mais moi, je ne sais pas s'il est mon président aujourd'hui. Parce qu'à moindre problème ici dans le studio, je ne sais pas si Blaise Masséga peut appeler Tshisekedi qui est venu intervenir ici. Donc il ne me gère pas, il ne me préside pas non plus. Et donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il est président.
Reste toujours en République.
Oui, il est président de la République dans certaines zones. Mais pas dans les zones déjà libérées par l'AFCM23. Et donc, j'étais en train de dire que les messieurs, en fait, ont créé un chaos au pays. Il a armé les prisonniers, il a armé les civils. Et puis il a pris tous les Kuluna qui étaient à Kinshasa, il les a amenés, je ne sais pas, à Kanyamakasese. Après un temps, il les a ramenés encore à Kinshasa pour aller, qu'il l'a nommé des bâtisseurs, c'est ça. Et puis à part ça, à Kinshasa, n'est-ce pas qu'il a mis en place ce qu'il qualifie aujourd'hui la force du progrès gérée par Auguste Kabuya. C'est pour vous dire que le régime que nous sommes en train de combattre avec les amis qui font l'opposition civile ou l'opposition non armée, au fait, les amis ont compris que nous étions dans les mêmes démarches. Et dans les démarches sur lesquelles nous sommes, c'est d'échanger les choses. C'est d'amener au régime, de les faire comprendre que le pays ne leur appartient pas. Le pays n'est pas leur propre magasin ou boutique, là où ils peuvent décider comme ils le veulent. Parce qu'il y a les citoyens également qui réfléchissent, peut-être au-delà de leurs convictions. Mais qu'est-ce que nous devons dire aux amis qui sont à Kinshasa, les amis de l'opposition? Il y a ce qu'on appelle une opposition inféodée. Et lorsque l'opposition est inféodée, elle devient une opposition du pouvoir. Quand je dis l'opposition du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir est là. C'est le pouvoir qui aujourd'hui qui nourrisse l'opposition. C'est ce même pouvoir qui dicte la méthode. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me contredire ici au studio Expedi, parce que nous devons vous rappeler que les amis ont déjà reporté à trois reprises leur manifestation. Pourquoi? Au nom de la manipulation et du mensonge.
Mais quand même, Hamza, c'est de la haute politique. On ne sait pas, essentiellement, comme nous échangeons tantôt avec les 7 Milengezi, garder une posture tant qu'on sait qu'il y a plusieurs acteurs sur la sphère et on peut trouver peut-être des compromis par d'autres voies au-delà de la voie...
par la pression.
De la manifestation populaire.
Là, ça peut être possible lorsque vous faites face à...
Parce que même
énorme...
vous faites la guerre, mais vous échangez aussi.
Non,
parce que vous utilisez d'autres voies pour obtenir gain de cause à votre...
À nos revendications. C'est pourquoi je disais, je vais y arriver. Pourquoi maintenant, nous les autres, nous avons changé la méthode? Parce qu'ici, on s'est démontré que nous tous, nous revendiquons les mêmes choses, mais de manière différente. Et les amis qui sont à Kinshasa, dès lors qu'ils se sont laissés inféoder, ils se sont laissés manipuler par les pouvoirs, ils sont en difficulté. Il y a mon ami du Corée qui venait de le dire tantôt. Les amis aujourd'hui sont en difficulté. Parce que même, je ne crois pas si aujourd'hui la population kinoise ou la population de Kinshasa peut encore accepter qu'ils soient mobilisés par l'opposition. Parce que l'opposition a déçu ou a trahi la population de Kinshasa. Parce que la population est d'accord, la population était derrière les démarches, mais à un certain moment, la population a pris des réticences. Mais on planifie aujourd'hui, demain on vous appelle, on vous soudoie et on vous donne des miettes et vous reportez.
Bon, même demain, on n'a pas de preuves à vous appeler.
Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle les dires et les non-dits. C'est-à-dire ce qu'on met au vu de l'opinion ou du grand public et ce qu'on fait en dessous de la table. Et donc, ne font pas croire que c'est au prix de rien que les amis de l'opposition étaient en train de reporter leurs différentes manifestations. C'est au prix de quelque chose. Et ça, je vous le rassure. Mais la question serait, comme nous revendiquons la même chose, nous devrions maintenant faire un front commun contre le régime. Avec les amis qui sont à Kinshasa, les amis du COREP et tous les autres qui sont indignés ou qui sont révoltés par la manière dont le pays est géré aujourd'hui, ils devraient venir se rejoindre à l'AFCM23. Parce que moi, je vous dis, Expedi, il n'y a aujourd'hui que l'AFCM23 qui peut faire face au régime en place.
Non, mais il faut rappeler quand même que l'AFC a pris les armes, mais c'est après l'organisation d'une marche à Kinshasa qu'on a senti le pouvoir fléchir en ouvrant la brèche.
En demandant qu'il y ait dialogue. Ouais. Non, en fait, c'est pourquoi je disais...
Parce que bon, peut-être que Kinshasa considère que la guerre a lieu à plus de 2000 kilomètres. C'est la fronde politique avec la manifestation à Kinshasa qui a placé visiblement le pouvoir en place dans une posture inconfortable.
Et c'est pourquoi je tentais de dire que les amis, en fait, le régime a compris. Les amis qui sont à Kin, moi je viens de dire qu'ils sont inféodés. Ils sont, en fait, ils sont manipulés quelque part. Parce qu'il y a, le pouvoir, le régime qui est représenté au sein de l'opposition. Et c'est pourquoi il y a certains aujourd'hui, ça ne va pas. Vous l'appelez c'est 64. Il y a un problème sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne parlent plus les mêmes langages. Parce qu'il y a certains qui sont d'accord. Comment on peut planifier une manifestation? Pourquoi vous mettez toujours un mois avant? Un mois avant. Alors que vous savez que le pouvoir qui est en face, lorsque vous les donnez beaucoup de temps, vous mettez beaucoup d'intervalles et aussi vous réfléchir avec des stratégies pour contraindre ou pour bloquer à ce que vos manifestations-là ne puissent plus avoir lieu. Et c'est pourquoi je disais qu'ils sont en fait. Ce sont des stratégies parce qu'ils sont inféodés.
Merci.
Mais j'étais chitant, disons, je sais que tu n'as pas fléchi. Je sais que tu as senti tout simplement que ça devient très chaud. Il est attaqué à l'est. Et ça commence à l'ouest, même s'ils n'ont pas la force que nous avons, ils n'ont pas les armes. Et il a senti comment encore il va se comporter à Kinshasa, comment il va se comporter à l'est de la RDC. Et là, il a trompé maintenant la 5 et l'SSC. parce que vous venez de dire qu'il y a les médias, je ne sais pas, la médiation est neutre, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Bien évidemment, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Mais ils ont été roulés dans la farine.
Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont été roulés ou
tout à fait
de bonne foi en attendant de prendre des dispositions qui s'imposent le moment venu?
Moi, je vais les prouver pourquoi ils ont été roulés dans la farine. Est-ce que vous savez que la dernière rencontre entre la Cinco, l'ECC et le président Félix, ce n'était pas prévu que ce soit la Cinco qui ait communiqué sur les résultats ou sur les conclusions qui ont été convenues avec le régime, avec le président Félix. Mais c'était prévu qu'à l'issue de cette rencontre-là, c'est le pouvoir en place qui devrait faire une importante communication. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ni la Cinco, ni l'ECC, ni les amis de la C64 continuent à attendre cette communication qui n'a jamais eu lieu. Et aujourd'hui, au lieu que Félix se concentre sur l'organisation, je ne sais pas, des élections, parce que nous sommes bientôt 2027, ça sera une année électorale, mais les amis sur la question des élections, ça ne les concerne pas. Ce qui les concerne aujourd'hui, c'est les changements, c'est la modification, c'est les glissements, ce sont des stratégies, mais pour chercher comment, je ne sais pas, élargir et aller au-delà de leur mandat. Mais moi, je vous dis que l'unique force pour stopper toute cette folie-là, c'est l'AFCM 23.
Merci.
Les restes n'est que des comédies de théâtre inutiles.
Merci beaucoup. Blaise Maseka, vous, cette première question. Que signifie ce retour en arrière du pouvoir à un moment où la Cour avait déjà déclaré la loi portant organisation du référendum conforme à la Constitution? Donc il fallait qu'on publie la loi au journal officiel pour qu'elle commence à poser des effets. Mais vite fait, on sent que le président saisit le Parlement pour solliciter une nouvelle examination de ces textes. Pour vous, ça symbolise quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière cette démarche?
La démarche, elle est purement normale. Elle respecte d'ailleurs la procédure. Peut-être que c'est la toute première jurisprudence en la matière, mais la loi prévoit que si la loi a été envoyée à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut la déclarer conforme à la Constitution, moyennant quelques amendements. Donc, ce que le chef de l'État a fait, c'est tout à fait normal, parce que le législateur initial, c'est le Parlement, donc les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut renvoyer la loi à ces deux chambres pour que les deux chambres puissent intégrer toutes les recommandations de la Cour constitutionnelle. Donc, à ce stade-là, je pense que ça ne cause pas problème. Et c'est là où je veux peut-être...
Mais sur le plan politique, qu'est-ce que ce geste symbolise?
Sur le plan politique, moi je pense que en un certain moment, le message est tel que il y a ce respect strict de la séparation de pouvoir. Et c'est ce que je voulais dire. Et moi je loue la bravoure de la Cour constitutionnelle. Parce que quand vous voyez entre autres les réserves émises, Et si du moins ce que Hamza Routega et les autres sont en train de dire serait vrai, la Cour ne mettrait pas ses réserves. Par exemple, pour la Cour estime que la loi sur le référendum a outrepassé les limites telles que notre Constitution le prévoit. Les matières sur lesquelles doit statuer un référendum sont connues. Mais dans le texte initial, le législateur est allé en dehors de ces matières-là.
Le législateur a constaté vraiment une absurdité dans la précision des matières.
Alors, s'il y avait vraiment des manœuvres dilatoires, parce que vous savez, la Cour constitutionnelle, pour le politique, on l'appelle, c'est vraiment une Cour politique.
Justement.
Parce qu'il siège même les non-juristes et les non-magistrats. Même toi, Expédie, si une composante, par exemple, le président de la République te nomme comme juge à la Cour constitutionnelle, tu vas y siéger. Donc c'est vraiment la Cour politique. S'il y a un régime qui veut faire des combines politiques, il doit passer par la Cour constitutionnelle. Donc nous devons d'abord féliciter notre Cour constitutionnelle d'avoir émis toutes ces réserves-là et renvoyer la loi pour des amendements. Ça, c'est
gagner du temps.
Dédé, vous avez parlé de... mais sur le plan politique, sur le plan politique, je dois le dire, il y a aussi un autre problème. Et c'est là où nous avons parlé des missions de nos représentants. Je ne sais pas comprendre comment une chambre constituée de 500 députés, tous majoritairement des professeurs, des gens qui ont étudié, qui ont des gros diplômes, qui ont de l'expérience, peuvent aller jusqu'à adopter une loi, la renvoyer au Sénat, qui est censé être la chambre des sages, hein, et que le Sénat, j'ai vu même la précipitation avec laquelle le Sénat a voté cette loi, elle n'a pas vraiment tardé au Sénat, on l'envoie au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement. À son tour, il renvoie la loi à la Cour constitutionnelle avec toutes ses imperfections constitutionnelles. Là, je pense qu'il y a eu une légèreté au niveau des deux chambres. Et prochainement, je pense que nos élites devraient nous éviter pareille situation. Il faut analyser les lois froidement. Il faut analyser leur conformité avec les dispositions constitutionnelles, parce que la constitution reste la mère des lois. C'est la loi des lois. Vous ne pouvez pas proposer une loi qui soit en contradiction avec la constitution. Quant à la marche de 1664, vous savez, moi je suis de la culture démocratique. À un certain moment, je militais dans un parti d'opposition. Et l'opposition en RDC est constitutionnelle. Je l'ai rappelé l'autre fois ici. D'ailleurs, la loi, il existe une loi sur l'opposition. Le pluralisme politique est reconnu dans notre constitution. Et le rôle de l'opposition est très bien connu. C'est le contrepoids du pouvoir. Donc, je ne peux rien attendre de plus de l'opposition. L'opposition est la vraie, l'opposition non armée. Parce que moi j'ai toujours dit, quand je vois Hamza ici parler de la constitution, je me demande, il parle de quelle constitution? Parce que eux-mêmes, leur mouvement, si nous rentrons dans la constitution, ils sont dans des actions qui peuvent être jugées de subversives. Et ils ne lisent que l'alinéa premier de l'article 64. Mais alinéa 2, Hamza Rutega peut avoir dormi. Parce qu'il ne faut pas lire la constitution dans ces alinéas qui vous arrangent plus. Nous devons être des légalistes. Mais je félicite quand même l'opposition non armée, l'opposition républicaine qui est constitutionnellement reconnue, pour cette pression-là. Parce que son rôle, effectivement, c'est de mettre la pression sur les régimes pour que les régimes fassent mieux. Mais aussi, cette opposition doit savoir que, depuis un temps, il y a une volonté politique du chef de l'État de convoquer un dialogue. Et les voix se sont levées. J'ai entendu l'opposition, la même opposition, c'est ça, 64, qui a salué l'initiative. J'ai suivi, par exemple, les partis politiques, le PPRD, le parti politique de Joseph Kabila, au niveau de Kinshasa, qui avait salué la démarche tout en émettant des préalables et des réserves, ce qui est normal. J'ai suivi la position de l'AFC M23, qui a refusé catégoriquement, alors qu'ils sont en plein dialogue depuis Doha et en Suisse avec le même régime. Je ne sais pas si l'AFC M23 veut garder son format à huis clos avec le gouvernement. C'est là que je ne comprends rien. Est-ce que les mêmes causes profondes de l'AFC M23 n'affectent pas toute la population et toute l'opposition dans son ensemble, ou la FCM23 a son agenda personnel qu'il voudrait soumettre à huis clos au régime? Ça, je ne sais pas. Mais nous, à son temps, nous les acteurs sociopolitiques qui avons décidé de rester ici, nous avions fait une déclaration dans ce sens-là, où nous avons voulu que ce dialogue soit le plus inclusif possible. Parce que des deux côtés, il y a des extrémistes. On ne peut pas aller dans un processus de dialogue avec des extrémistes de tous côtés. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans le pouvoir à Kinshasa, nous avons des extrémistes. Et dans la phase actuelle, ces extrémistes ne devraient pas avoir une place.
que ce soit dans l'opposition armée ou non armée, nous avons aussi des extrémistes.
Tout à fait.
Voilà pourquoi nous, à son temps, nous avons fait une déclaration, nous avons dit ce dialogue devrait être le plus inclusif possible. Nous sommes tous Congolais. Nous avons le même problème, la refondation de l'État. Nous savons que notre État est en panne. Personne ne peut méconnaître cela. Nous avons plusieurs problèmes. Nous avons plusieurs défis. On doit associer tout le monde, c'est tous les acteurs clés, parce que toutes les crises que vous voyez ici, et mon ami de ma droite doit savoir, les crises congolaises ont toujours des tireurs de ficelles. Oui, Joseph, il y a toujours des tireurs de ficelles dans l'ombre. Ce n'est pas celui que vous pensez mener l'action sur terrain qui est le cerveau moteur de cette action-là. Donc, il faut identifier tous ces gens-là. Et moi, je pense que le régime a déjà montré sa bonne foi. D'ailleurs, j'ai entendu que la délégation de l'ECC et de la CENCO pourrait se rendre à Goma dans les prochains jours pour rencontrer les autorités de l'AFC-M23, rencontrer des acteurs majeurs comme Joseph Kabila, parce que nous devons nous les dire. Dans ce processus, vous ne pouvez pas exclure quelqu'un comme Joseph Kabila. D'abord, il a géré le pays pendant 18 ans. Donc, si on peut parler de Mouchamouka nationaux, le tout premier Mouchamouka, c'est lui qui maîtrise la RDC, c'est lui qui, lui-même d'ailleurs, est passé par les mêmes problèmes. Il a pris le pouvoir quand le pays était émietté. Il a réunifié le pays. Vous ne pouvez pas parler de même problème tant que celui-là vivant. Et il a encore de la matière qu'il peut apporter en termes d'expérience et d'expertise. Vous ne l'associez pas. C'est de la manotété. De deux, j'ai appris qu'ils vont se rendre à Goma, ils vont rencontrer. Et c'est là où nous disons, si dialogue il y aura, ça ne devrait pas être cette fois-ci un dialogue entre belligérants. Parce que nous savons comment ça se passe entre eux. C'est pour le partage du pouvoir. Et à la fin, le problème reste égal à lui-même, puis il se remet dans une même machine politique par la suite, qui peuvent appeler majorité présidentielle. Ne soyez pas surpris de voir demain Amza Rutega devenir communicateur acharné, engagé et engageant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est normal. Ça, au Congo, nous sommes habitués à ça. On doit associer les acteurs locaux aussi. Les vraies victimes de cette guerre, nous qui sommes restés ici, nous devons avoir une voix dans ces assises, parce qu'au moins nous, nous avons vécu, nous avons vu, nous avons subi et nous continuons à subir les affres de cette guerre.
Merci beaucoup. Blaise, les amis prédécesseurs dans ce sujet ont estimé que, de quelque part, l'opposition était copine, hein, au pouvoir en place. Parce que, selon eux, à chaque fois qu'une action est annoncée, souvent, c'est la CENCO qui intervient, ou ce sont les chefs d'État de la région. On a vu à un moment, ils se sont dirigés au Burundi, ils sont partis au Congo-Brazzaville pour aller discuter avec Denis Sassou Nguesso. Les amis prédécesseurs au studio estiment que cela donne l'impression que l'opposition est alliée au pouvoir. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Au fait, le rôle de la CENCO, c'est d'ailleurs ça, c'est d'apaiser les tensions. Parce que personne n'a besoin de tension. Et la CENCO est constituée de prêtres et l'ECC de pasteurs. Leur rôle, en effet, c'est d'ailleurs dans les béatitudes, le rôle des pères de l'Église, c'est Nikupatani Shawatu. Je vais le dire en swahili comme ça. Mais je ne pense pas que, parce que Hamza a dit, en politique, ce qui est vrai, le régime peut créer sa propre opposition. Parce que l'opposition elle-même est plurielle. Le régime peut estimer, je fabrique mon opposition, mais une opposition que je vais contrôler. Mais dans le cas de 1664, si vous regardez les acteurs de cette opposition, dans la configuration actuelle de la RDC, je peux la classer dans l'opposition radicale. C'est l'opposition la plus radicale. Quand vous prenez Martin Fayoulou, je ne pense pas que Martin Fayoulou soit facilement manipulable. Quand vous prenez des opposants comme Délice Essanga, Jean-Marc Kabound, ce sont vraiment les plus radicaux de l'opposition congolaise.
Une opposition aussi hétérogène.
Oui, hétéroclite.
Qui se battait pour accéder au pouvoir.
Oui, et hétéroclite.
Qu'on n'imaginait pas s'asseoir autour du même table.
C'est ça, c'est un peu ça. Ils ont un même front. Vous savez quel est l'intérêt peut vous unir, l'intérêt unit les gens. Hein? Donc ils ont la même cause, ils veulent le départ à tout prix de Félix et Antoine Tshisekedi à l'issue de son deuxième mandat, contrairement à Hamza Rutega et l'AFC 23 qui, eux, veulent sa chute libre
et les changements du système
pendant son mandat constitutionnel, malheureusement. Et par des moyens les plus brusques, par les armes. Donc moi, je pense que, avant l'ordonnance, avant que le chef de l'État ne prenne l'ordonnance, en principe, il y a ce qu'on appelle cette diplomatie des couloirs. Et c'est le rôle que les évêques et les pasteurs sont en train de jouer. Je venais de vous dire tantôt, le chef de l'État ne peut pas prendre cette ordonnance parce que son contenu, le contenu de cette ordonnance qui convoque les dialogues, doit tenir compte de tout ce qu'on a récolté comme desiderata auprès des différents acteurs pour que l'ordonnance ne sorte et qu'elle soit réquisée par la suite.
Merci beaucoup. Je vais donner parole au CTM et Joseph Anciste. Vous avez une réaction à ça.
Merci beaucoup. Selon les interventions du camarade Blaise Maseka, le problème n'est pas la procédure. Le problème n'est pas la démarche. Le problème dans tout ça, c'est l'intention. L'intention de changer cette constitution. Pour le pouvoir, c'est clair. L'intention est de se maintenir au pouvoir. Quant aux procédures, la procédure suit son circuit normal, constitutionnel. Aller à l'Assemblée, au Sénat, à la Cour constitutionnelle, revenir, renvoyer encore là, tout ça, c'est la procédure, c'est une bonne démarche. Mais l'intention, c'est là où le bât blesse. Vous comprenez?
Donc vous faites un procès d'intention?
Ce n'est pas c'est mes analyses. Hein? C'est mes analyses. Chacun fait ses analyses, je fais les miennes. Hein? Et chacun assume. Mais l'intention là, tous ceux-là qui disent, même Hamza que vous dites, il n'a pas raison de prendre les armes. Mais si toutes les voies ont échoué, qu'est-ce qu'il faut toujours... Il faut toujours garder...
La constitution n'a pas pris
silence.
Donc par là, vous reconnaissez également le droit au groupe Ouazalendo de prendre les armes.
Non, je ne le dis pas.
Et tous les groupes résiduels...
Le groupe Ouazalendo...
Que deviendrait la République?
Ce sont les civils.
Chacun prend les armes.
Ce sont les civils. Et là, il faut montrer, il faut convaincre la population pourquoi vous avez pris ces armes.
Merci beaucoup.
Et donc, je voudrais dire ici, dans tout ça, je l'ai dit d'ailleurs avant, tout celui qui dit non au changement de la Constitution, il a comme sous-bassement la Constitution. Tout celui qui veut changer la Constitution, il a aussi comme sous-bassement la Constitution. Et donc, ce qu'il faut comprendre là, il n'y a pas d'argument juste que fort. Nous attendons à une force d'argument qui va convaincre la population à faire ces changements ou à ne pas les faire. C'est parce que c'est un droit.
Merci.
Mais que je sache et que je crois, ça ne va pas passer parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui dit, quand bien même ils adoptent aux approches un peu différentes, il y en a qui disent je vais prendre les armes, les autres qui disent je vais descendre
les couteaux
dans la rue, et les autres vont dire, et même ces Ouazalendo là que vous dites, je ne sais pas si ils sont pour le changement de la constitution. C'est l'intention là du pouvoir pour se maintenir au pouvoir. C'est, ça saute aux yeux, c'est clair.
Merci. C'était Mélenguez à ce stade pour nous dire que le président de la République est le maître du jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'il a la commande de la situation sur le terrain? Parce que, bon, à certains égards, bon, même si les amis ont estimé qu'il s'agit de la procédure, mais on sent que le fait de ramener la loi au Parlement, c'est une preuve de décrispation de la tension politique, parce que les gens s'attendaient à ce que la loi commence à produire les effets, mais il rentre encore au Parlement, et on doit rappeler que la session va jusqu'en décembre, ça peut prendre du temps. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le président de la République qui est le maître de la situation jusque-là?
Ok, avant de revenir sur certains aspects, je dois d'abord répondre par oui. Mm-hmm. Là, maintenant, il est le maître des jeux. Et c'est ce qu'on doit reprocher à l'opposition, parce qu'il laisse au pouvoir une grande marge de manœuvre. Mmh. Okay? On venait de parler ici que la procédure a été respectée. Et dans cette procédure-là, on a parlé de la légèreté au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat. Non, ce n'est pas de la légèreté, c'est de la complicité. Ok, nous avons déjà une Assemblée nationale, nous avons déjà un Sénat qui est inféodé au pouvoir. Personne ne l'ignore. Et d'ailleurs, c'était la preuve, bien évidemment, que nos députés étaient vraiment les députés, vraiment de la machine à voter. Donc on ne peut pas faire confiance à nos députés. Comment 13 articles sous réserve, ok, constatés au niveau de la Cour constitutionnelle, ces 13 articles ont été validés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ok, cela doit inquiéter. Même au niveau de la Cour constitutionnelle, lorsque la loi n'est pas conforme à la Constitution, on la déclare non conforme, de manière claire. On ne va pas demander qu'une loi non conforme à la Constitution soit publiée sous réserve. C'est aussi de la complicité.
Tout à fait.
Nous devons le dire clairement aux Congolais. La Cour constitutionnelle a voulu seulement jouer le jeu du pouvoir. Okay. Comment vous allez demander qu'une loi soit publiée pendant que dans cette même loi, il y a 13 articles que vous-même, vous supposez être non conformes à la Constitution? Et l'opposition n'a pas cessé de crier. Depuis que cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, on a dit « cette loi viole certains articles de la Constitution ». Alors, si nous devons évoluer, est-ce que c'est un procès d'intention maintenant? Non, les faits sont déjà là. On ne va pas dire que le président de la République a seulement l'intention. Non, déjà la démarche est en cours. Ok? La loi sur l'organisation du référendum, et ce référendum vise le changement de la Constitution, c'est déjà un fait. Malheureusement, dans cette loi, il y a des articles qui violent la Constitution, et le premier défenseur de la Constitution, parce que nous devons le dire, nous tous Congolais, à part le président de la République, nous respectons la Constitution par principe, parce que tout Congolais doit respecter la loi de son pays. Mais l'unique Congolais qui a prêté serment devant Dieu et la nation de respecter et défendre la Constitution de la République, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il devrait être le premier défenseur. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre que l'opposition est en train de l'aider, ok, à pouvoir accomplir sa promesse vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de Dieu, son serment, il cherche alors à contourner. Et donc, on n'est pas dans le procès d'intention, on est dans les faits. J'ai parlé ici que le pouvoir laisse, que l'opposition est en train de laisser une grande manœuvre au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de céder sans contrepartie. Et ça, c'est très malheureux. Je prends un exemple. Lorsque la CENCO était venue dire à la C64 que non, vous pouvez attendre le dialogue. La C64 pouvait dire aussi, pendant que nous attendons le dialogue, demander aussi au président de retirer sa loi. Ok? À ce moment-là, on resterait dans une situation de bras de fer. Parce que là, le président de la République, refusant de retirer sa loi, l'opposition aussi maintiendrait sa marche. Même maintenant, qu'est-ce qui empêcherait la C64 de dire, nous avons attendu que la loi... Que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Au lieu que le président ramène cette loi à l'Assemblée nationale, carrément que le président retire cette loi. Mais ils veulent encore de laisser un mois. Ok? C'est vraiment un grand espace temporel qu'il laisse au pouvoir. Et comme je l'ai dit ici, s'il y a certains qui pensent que nous avons affaire aux hommes sérieux, mais l'histoire nous a montré que le pouvoir en place, moi, le mot sérieux, je peux mettre ça entre guillemets. Et donc, il faudrait que ceux qui nous représentent, parce que je l'ai dit, et peut-être Joseph a cru que le COREP n'est pas dans la démarche de la C64. Nous sommes dans la démarche de la C64, mais nous n'appartions pas à la C64. Parce que les partis faisant partie de la C64 ont signé la charte de 64. Le COREP n'est pas signateur.
Il n'est pas un parti.
Mais nous accompagnons. Ok, nous accompagnons. Alors, le COREP n'est pas un parti, mais le parti naît toujours comme ça. Parce que lorsque le COREP deviendra parti, on devra nous demander est-ce que vous avez des membres, est-ce que vous avez le siège, est-ce que vous avez tout ceci. Donc, ça viendra.
Merci beaucoup. Hamza Routega, quelle place accordez-vous à ces consultations entre chefs d'État de la région et l'opposition pour essayer, les acteurs impliqués dans la crise congolaise, pour essayer d'apaiser ou d'arrondir les angles? On a vu que le Congo-Brazza s'est jeté dans l'eau, on a vu que le Burundi également, l'Angola et tout le reste.
Non, moi je tentais de dire que si on faisait face à un homme qui n'était pas sourd-muet, parce que c'est ça les mots que j'ai utilisés, c'est un sourd-muet. Parce que la démarche dans laquelle nous sommes
aujourd'hui. Parlons du président de la République.
Moi je l'appelle Félix, parce que en tout cas je pense qu'il faut l'appeler président de la République. Il faut aussi l'appeler président, mais quand il y aura des problèmes, tu ne l'appelleras jamais président. Je tentais de dire que au fait, si on faisait face à un homme qui était honnête, la paix serait déjà là. Parce qu'à l'ASM23, on a démontré à plusieurs reprises qu'on était tout à fait d'accord pour un dialogue. On était dans les processus de paix. Mais qui a abusé? Qui a abusé? Si ce n'est pas Félix, c'est son équipe. Parce que la démarche a commencé, pas seulement c'est ici au Kenya, à Nairobi. Nous sommes l'équipe est partie en Angola. On est rentré au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on est avec Ndayishimiye. Alors que pendant que Ndayishimiye s'est fait passer comme un médiateur, mais lui, il a des forces, il a la force, les forces burundaises qui sont sur le sol congolais, qui sont en train de tuer nos frères, ici, dans la partie sud-sud. Parce que nous faisons face à l'armée burundaise. Mais comment on peut être médiateur tout en étant partie prenante au conflit? Et donc, c'est une manière de vous dire que tout simplement, je ne pense pas que les processus dans lesquels nous sommes aujourd'hui, on peut trouver une solution. La seule solution, effectivement, c'est de mettre Félix à l'écart, parce qu'il est partie prenante au conflit, et chercher des médiateurs nets, les vrais nets, qui vont assumer et qui vont concevoir les termes de référence du processus, et ce sont les termes maintenant qui vont inviter les gens à venir dialoguer. Donc, il faut que Félix soit invité comme les autres parties prenantes. Mais que ce ne soit pas Félix qui nous convoque, qui nous invite pour venir maintenant parler, alors qu'il a déjà tué des milliers de Congolais, des milliers de populations. Si aujourd'hui nous ne respirons pas la paix, c'est parce que Félix a jugé mieux de prendre les armes et les donner aux civils. Il a jugé mieux d'acheter des drones pour bombarder les citoyens, les innocents. Et aujourd'hui, qui nous appelle pour venir dialoguer. Mais comment c'est fait? Qui peut comprendre ces intentions-là? Et je venais de le dire aujourd'hui que les pays ont été d'aller dans les chaos, en fait. C'est dans les chaos. Blaise ne peut pas accepter aujourd'hui, mais dis-moi d'ici 2027, vous allez vous rappeler de ce que je venais de dire aujourd'hui au micro de la radio Maïndeleo. Parce qu'avec les bâtisseurs qu'il a amenés à Kinshasa, des milliers, avec la force du progrès qu'il continue à armer et à nourrir à Kinshasa, avec les jeunes gens qu'il a ramassés ici chez nous, qu'il qualifie de Wazalendo, qui ont des armes dans des maisons et en tenue civile. Moi, je pense que les pays ont fait en train d'entrer dans les chaos, mais pour stopper cela, il fallait que tous les Congolais quittent la passivité pour entrer dans l'activité. Merci. Et pour entrer dans l'activité, c'est de venir, au fait, rejoindre nos forces de sécurité pour que nous tous nous puissions partir à Kinshasa et dire au revoir à ce régime-là. Parce que la différence, c'est quoi? La différence avec l'ASM23, avec les amis qui sont à Kinshasa, la différence est telle que les amis se sont focalisés sur des faits, le non au changement de la constitution et non à un troisième mandat. C'est ça, non? Alors que l'ASM23 a compris que l'État n'existe plus, la refondation, Blaise en a parlé, la faillite de l'État. Qui est ce Congolais aujourd'hui qui ne connaît pas que la RDC n'existe plus? Si moi je vous dis que Félix n'est pas président, c'est parce qu'en fait il ne préside pas, il ne gère, il n'est plus le garant du bon fonctionnement des institutions de la RDC. Parce qu'il y a des
territoires. Il faut que, je vous le concède, mais je rappelle quand même que plusieurs fonctionnaires vivent dans les zones sous occupation de l'AFSAM 23, mais il continue à être pris en charge par Kinshasa. Donc,
pris en charge et par Kinshasa, c'est pas Félix.
Ça reste encore
les c'est l'État. C'est pas une faveur expédie. Donc, être fonctionnaire de l'État, être un agent de l'État, et qu'on est dans des zones libérées par la FM23, et qu'on continue à recevoir les primes ou les salaires, c'est pas une faveur.
Non, parce que vous avez dit garant du bon fonctionnement des institutions, je vous dis que les institutions, bien qu'absentes ici, elles continuent sur le plan, par exemple, social, de prendre en charge des fonctionnaires.
Mais tous ceux-là qui travaillent à la FM23, ils ont les salaires, ils ont des primes.
Merci beaucoup.
Donc, j'étais en train de citer pour dire qu'il y a un problème sérieux au pays expédié.
Okay.
Et ces problèmes-là, nos enfants, nos arrière-enfants, nous poserons la question, qu'est-ce que nous avons fait quand nous avons vu que la République était en train d'être brûlée par un régime. Un régime, s'il vous plaît. Et ce régime-là, on devrait faire un front commun, comme je l'ai dit tantôt, pour mettre au fait fin à ce chaos-là et refonder l'État.
Blaise Maseka, comme politique, vous êtes du FPCN, qui est de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous entrevoyez l'avenir du régime en place aujourd'hui? Parce que nous rappelons, comme je l'ai dit tantôt, on va réexaminer le texte, disons, pendant la session de septembre qui va jusqu'en décembre. Et après cela, on est en 2027. Et vous avez évoqué les éléments qui justifient, disons, le retard dans la signature de l'ordonnance. Il faut arrondir les angles, trouver des compromis. Il faut savoir qui participe, le format, où tenir le dialogue et consort. 2017-2027, nous serons pratiquement une année de l'année butoir du mandat du président de la République. Au vu de paramètres en vue, des paramètres qui sont en présentiel, comment vous entrevoyez l'avenir de la République et surtout du pouvoir à la tête du pays maintenant?
Merci beaucoup, Expédie. Moi, dans ma tête, je suis plus un homme d'État qu'un homme d'un régime. Je ne voudrais pas parler de l'avenir d'un régime. Les régimes se succèdent, les hommes passent, mais la République restera. Donc je ne voudrais pas analyser, entrevoir l'avenir de ce pays en l'arrêtant sur un régime quelconque.
Non. En allant sous votre réflexion, quel avenir de la République?
Tout à fait. Là, vous avez posé une très bonne question. Moi, j'ai toujours été optimiste. Je ne peux pas être pessimiste parce que pour moi, le pessimisme, c'est une lâcheté. On ne peut pas dire comme ça ne va pas, c'est la mort, c'est le chaos et qu'on sort. Non, moi, je ne suis pas prophète du chaos. Je reste optimiste. Et mon optimisme se fonde d'ailleurs sur ce qui est en train de se faire, cette volonté politique, de part et d'autre, de voir les choses évoluer. Vous savez, il y a un temps, le pouvoir ne voulait pas du dialogue. Mais si le même pouvoir a accepté la proposition de la CENCO et de l'ECC, c'est déjà une avancée très significative. Sur le plan politique, c'est une avancée très significative. Donc, en un certain moment, le chef de l'État a trouvé qu'il y avait un passe. Et comme lui, comme c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, nous-mêmes les hommes étant membres de ces différentes institutions-là, il a trouvé qu'il fallait décrisper la situation politique au pays. Voilà pourquoi moi, mon optimisme se fonde dans cet élan-là du dialogue. D'ailleurs, la culture démocratique repose sur un dialogue permanent. Donc, on devrait faire en sorte que, comme dans tous les autres pays civilisés, toutes les fois qu'il y a un sujet de société, un débat de société qui nous divise, qu'on soit en mesure de se mettre autour d'une même table, qu'on mette les intérêts de la République en avant, au-delà de nos intérêts personnels, des intérêts de nos formations politiques ou de nos mouvements politico-militaires. Je pense que c'est là où se fonde mon optimisme et c'est là où nous, je pense que c'est même ça la position de toute la population de l'Est, longtemps meurtrie, pendant plus de 3 décennies de guerres interminables. Nous sommes dans un cycle de violence, les gens meurent, Vous veniez tantôt de parler des différents massacres, entre autres celui de Gatumba, mais il y a eu d'autres massacres, les gens continuent à mourir jusqu'à maintenant. Ouais. Jusqu'à maintenant. Ça ne profite à personne. Je pense que ce dialogue-là, qui devra être inclusif, devrait être capable de juguler tous les mots, toutes les causes profondes. Les gens de l'AFC 23 ont toujours utilisé le terme causes profondes. On doit être en mesure de mettre toutes ces causes-là profondes autour d'une même table, identifier les acteurs, les auteurs et définir les modalités pour en finir une fois pour toutes. Parce que pour nous ici, à Bukavu, à Goma et dans d'autres zones qui sont sous, entre guillemets, libération, occupation, chacun va choisir son terme. Je pense que notre urgence, c'est le retour de la paix. Et c'est là où j'ai aimé vraiment la conclusion de la correspondance de l'honorable Théon Wabidje, qui montre que l'urgence pour nous ici, nous populations de l'Est, c'est d'abord le retour de la paix, c'est d'abord le retour de tout un chacun dans son coin et recoin, et cela va permettre à chacun d'évacuer paisiblement à ses occupations, parce que nous tous, nous ne sommes pas politiciens, nous tous ne sommes pas militaires, mais si un cultivateur paix, facilement cultiver ses champs, récolter et écouler ses produits de récolte. Si un éleveur peut prendre soin de ses bétails en toute quiétude et en toute sérénité, je pense que ce sont des ingrédients qui peuvent concourir au bien-être et au développement de nous tous. Voilà donc, je lance un appel pathétique à tous les acteurs. Hamza Routiega a évité d'être l'extrémiste de l'AFC M23, ne pas reconnaître que le président Félix reste jusqu'à preuve du contraire notre président de la République. C'est une tricherie de ta part. Dans toutes les sorties médiatiques, que ce soit de Corneille Nanga, le coordinateur de l'AFC 23, tous les hauts responsables de votre mouvement, ils reconnaissent avec élégance que le chef de l'État actuel s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Merci beaucoup, Joseph. Également, à votre niveau, quelles sont les perspectives que vous proposez pour ramener les uns les autres avoir une même vue sur la marche de notre société?
Merci beaucoup. Comme vient de le dire le frère Blaise, les extrémistes sont partout. Mais si les gens cherchent intérêt d'attente, les dialogues, c'est pour rapprocher toutes ces extrémités, voir comment on peut trouver intérêt d'attente pour parler le même langage. Même si c'est difficile au fait. Et puis, dire que les choses ne marchent pas, c'est pas être pessimiste. Et donc, nous ne pouvons pas gérer les pays avec de tels langages. Sinon, c'est aller avec les hasards. Nous devons nous impliquer. Ce qui ne marche pas, on dénonce.
Tout à fait normal.
Ce qui marche,
On apprécie
et on donne notre appui. Mais dire que moi je suis optimiste, je sais que ça va aller. Et dire que moi je ne peux pas dire pour le régime parce que les institutions restent même si les hommes passent. Le régime de Kinshasa aujourd'hui, que nous reconnaissons que Tshisekedi est président ou pas, mais il est le président de la République. Mais nous sommes autorisés de faire les analyses, dire si il a réussi ou il n'a pas réussi.
Normal.
Tout de suite, très ici,
normal.
Vous venez de faire l'évaluation des députés du site Kivu. Comment ils sont intervenus dans l'Assemblée nationale. Mais si notre président, par exemple, le frère Hamza Routiega a dit, au site par exemple, il y a plus de 10 ans, quelqu'un de Bukavu, quand vous lui posez la question de cette crise, il va vous dire le temps que le M23 est ici à Bukavu, peut-être il va compter 2 ans. Pendant que nous, du Sud-Sud, de Minembwe, de Fizi, de Haut-Plateau d'Ouvira, il y a 10 ans où il y a toujours la guerre. Et même s'il faut remonter l'histoire, on peut aller avant jusqu'à toucher ce que vous appelez les massacres de Gatumba, que moi j'appelle le génocide. C'est vrai, il y a les massacres partout au Congo et il y a les génocostes partout, mais quand vous voyez la définition ou la définition de chaque camp, où vous voyez l'historique, comment cela est arrivé, ce qui est arrivé par exemple à Kasika, ce qui est arrivé par exemple à Makobor et partout ailleurs, c'est très différent de ce qui est arrivé à Katumba et ce qui continue toujours à arriver à Minembwe, dans le sud-sud. Voyez-vous, la différence est qu'il y a la chasse d'hommes. Voyez, si il y a eu l'incident.
Merci.
Non, oui, je vais, laissez-moi atterrir.
Oui, oui.
La différence.
L'épuration ethnique.
Où il y a l'épuration ethnique. Même ici,
c'est deuxième cause profonde.
Vous voyez même les drones. Les drones qui ne cessent pas de traumatiser les gens à Minembwe.
Ce qui s'est passé aussi peut-être à Kasika.
Non, ce n'est pas la même
chose.
Des gens ce n'est pas la même chose.
Et
ce
font n'est pas partie que... d'une communauté précise qui ont été visées.
Et ce n'est pas que je ne pleure pas. Ce qui s'est passé des autres.
Oui, ce sont des massacres.
Je suis en train seulement de dire.
Prêche pour sa chapelle, que chacun prêche pour sa chapelle.
Non, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. Lorsque vous dites les gens de. Tout de suite, là, quand nous avons. Avant de commencer, vous avez dit le message de Maître Vincent, qui a fait allusion, que je salue en passant, de ce qui s'est passé à Katumba. Vous savez qu'à Katumba, ils étaient dans un camp de réfugiés, où il y avait beaucoup de Congolais. Mais on n'a fait que cibler là où il y avait Emunyamulenge, ici, si cette bâche, la bâche ici, il y a Emunyamulenge, on tue. Ici, il n'y a pas Emunyamulenge, on passe. Là, il y a. Quand des choses comme ça, ça signifie tout simplement un génocide.
Merci
beaucoup. Et même aujourd'hui, là où il y a. La FCM23 et Ouvira, vous pensez qu'il y a, les gens ne circulent pas? Il y a les gens qui quittent ici jusqu'à Ouvira, sauf Emunyamulenge ne peut pas quitter ici et
pour aller à Ouvira.
Pourquoi cette exception? C'est cette exception qui fait que même toutes ces morts ne sont pas les mêmes. Vous comprenez?
Merci, j'ai compris.
Les génocides, ce n'est pas le nombre de gens
entendu.
Qui sont morts.
C'est bien entendu, Joseph. Revenons sur les perspectives que vous étiez en train de proposer.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Si nous ne nous disons pas la vérité de ce qui se passe au Congo, nous n'allons pas trouver la solution.
Merci.
Vous comprenez?
Oui.
Et donc, si nous disons que ça ne marche pas, ce n'est pas être pessimiste. Donc, au Congo, il y a un problème. Même celui qui est aujourd'hui comme médiateur, comme l'autre Hamza venait de le dire, le président du Burundi, Ndayishimiye, qui est le plus acteur, qui est l'acteur principal de ce qui se passe au Congo plus que Ndayishimiye. Je crois qu'il est plus combattant que Tshisekedi. Parce que les militaires burundais, l'armée burundaise,
sans pitié.
Oui, c'est cette armée qui opère dans les sud-sud plus que même les pharmacies. Je vous assure.
Merci.
Comme ça.
Donc,
c'est ça,
vous dites qu'il faut qu'on échange sur toutes les questions, qu'on se dise la vérité.
C'est
ça l'importance de l'organisation du dialogue, Joseph.
Mais
pourtant,
la
SAM 23 a dit qu'elle n'était pas partante pour le dialogue.
Je ne vois pas la chance à ce dialogue pour autant que le président. Comme vous avez voulu qu'on l'appelle ici, le président Tshisekedi, n'a pas intérêt à ce dialogue. Et je ne pense pas que ce dialogue aura lieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ont demandé ce dialogue, n'est-ce pas que ce sont des confessions religieuses pour dire, écoutez, vous l'opposition, vous avez mené beaucoup d'actions et il y a des conséquences comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner le temps d'aller convaincre le président de trouver un terrain d'entente ensemble? Nous savons que les cahiers de charges de l'opposition, de la société civile et tout le monde qui va être invité, c'est d'abord dire non au changement de la constitution. Et tout ça,
Tshisekedi n'est pas aveugle pour ne pas voir tout ça.
Merci
et,
beaucoup.
Et lui, il ne peut pas convoquer ce dialogue alors qu'il
est partie prenante.
Il est partie prenante.
Merci beaucoup.
C'est une façon seulement de dire, mais ça ne sera pas organisé. Ça sera impossible.
Mais vous pensez que nous allons nous dire la vérité par quel cadre si vous refusez de saisir l'opportunité de ce dialogue-là?
Il y a des cadres, même même ici où nous disons, c'est un cadre où nous pouvons nous dire. Vous pensez que j'irai faire la paix, il faut seulement faire le dialogue, un dialogue qui est occasionnel. Mais il y a l'Assemblée, nous avons vu avant même la guerre, même pendant cette période de guerre. Il y a les députés, quand ils parlent, vous vous posez la question, est-ce un député celui-là ou c'est comment?
Merci.
Hein? Pendant la campagne électorale, ici, au sud-sud, j'ai dit, j'avais que précision.
J'étais candidat.
J'étais candidat.
De l'AFDC.
Oui.
On doit les rappeler que tu es cadre de l'AFDC.
Oui. Vous n'avez pas encore démissionné.
Non, je ne refuse pas.
Bon, peut-être qu'il a changé.
C'est
pas ça. Éclairer la lanterne.
C'est pas ça, les sujets.
Les auditeurs.
Mais nous disons ceci. Hein? J'ai été candidat et j'ai été retiré de la liste. Vous savez, ça aussi, il faut le dire. Hein? J'ai été retiré de la liste parce que, tout simplement, les gens disaient, ils ont dit à haute voix que nous ne pouvons pas chasser ces gens et les maintenir encore sur la liste électorale. Sinon, c'est faire une chose et son contraire à la fois. Et c'est prouvé. Vous comprenez? Et donc, si un candidat va venir, au lieu de battre sa campagne au nom de la paix, au nom de la démocratie, il commence à pointer
il doit attisser le feu,
à semer la haine. Et personne ne dit pas, niette, il ne faut pas continuer comme
Merci,
ça.
Joseph.
Il y a des radios YouTube qui émettent jour et nuit pour dire, tuez les gens et vous avez la bénédiction du chef de l'État. Et il n'y a pas le service de l'ordre qui les appelle pour dire, qui vous a dit de,
merci
de
beaucoup,
dire ça.
Merci
donc,
beaucoup.
Ne pas les arrêter, c'est une façon de le permettre de manière explicite à continuer de faire ce qu'ils ont fait.
Merci beaucoup,
donc,
c'est
si
bien
nous
entendu.
Disons, nous devons nous dire la vérité. C'est dans tout. Dans tous les cadres.
Oui, oui, pour mettre fin aux discriminations tribales, identitaires et consorts.
Tout ce que nous sommes en train de suivre, c'est les résultats de ceux qui ont précédé
Merci
les discours
beaucoup.
De haine et autres.
Hamza, qu'est-ce que vous proposez comme perspective pour nous ramener vers l'entente, pour que les acteurs trouvent un compromis et que le climat de paix soit assaini en République démocratique du Congo, le climat politique de façon globale?
Oui, Expedi, nous avons toujours proposé ceci, qui est un dialogue. Les dialogues, oui, mais pas avec ceux qui ont créé la guerre. Ceux qui ont créé la guerre, nous venons de les citer ici, et qui nous font la guerre, c'est le régime, c'est le pouvoir. Je venais de dire ici que le pouvoir ou le régime ne peut pas jouer au sans-pierre-pompier. Donc ils viennent, ils brûlent les maisons, ils brûlent les citoyens, ils brûlent les villages, et après un temps, il faut sembler avec des eaux dans les bassins pour venir chez nous comment mettre fin à cela. Mais plutôt, le régime devrait se comporter comme une partie prenante à la crise. Donc, qu'il y ait des médiateurs qui vont nous convoquer, mais n'est-ce pas qu'il y a Mukwege aujourd'hui, à qui il y a une nette crédibilité de sa part. Si on pouvait y ajouter quelques membres des Nations Unies, par exemple, ou de quelques chefs d'État de la sous-région, mais pas avec ceux-là qui ont signé des accords avec les régimes pour venir exterminer les Congolais. Donc, il fallait qu'il y ait, en fait, des médiateurs neutres, comme aujourd'hui nous faisons à Doha, en Suisse, n'est-ce pas? Mais là, il y a des médiateurs qui sont un peu neutres et qui ne font pas partie de la crise, qui essaie de nous mettre sur la table pour qu'on échange sur les causes profondes de la crise. Et c'est ça qu'il nous fallait, au fait, en RDC. Au lieu que le régime continue à gagner du temps, à continuer à tromper l'opposition, continue à tromper les pères spirituels, notamment les religieux, il continue à tromper, je ne sais pas, tout le monde. Moi, je pense que le moment était venu pour se dire, Félix, non, je fais partie de ce conflit. J'ai beaucoup causé des torts à la population congolaise. Désormais, je demande à ce qu'il y ait des médiateurs qui vont nous amener à la table de négociation. Là, on peut se sentir à l'aise. Parce que vous vous imaginez, Expedi. Aujourd'hui, moi, Hamza, on m'invite au dialogue. et je me retrouve face à Félix qui a brûlé les villages de ma mère, les villages de mon père, et on me dit maintenant, c'est lui qui est le modérateur du dialogue. Alors que lui aura déjà pris sa position, alors que c'est pas au prix de lui que je vais trouver une solution à mes problèmes. Que
vous insistez sur une médiation nette.
Nette. Merci beaucoup. Et donc, et pas, ça soit pas Félix qui signe l'ordonnance pour nous, dans nos communs. Et on attend, on n'a pas besoin de l'ordonnance de Félix, mais nous attendons que ce soit des médiateurs nets, purement nets, qui vont nous inviter, nous tous, ni Félix, ni les amis de l'opposition, la société civile, tout le monde, pour que nous puissions aller dire à Félix la vérité de ce qui s'est passé en RDC.
Merci, c'était Milengezi également. Qu'est-ce que vous proposez comme perspective?
Comme perspective, le Corée n'est pas toujours estimé que le dialogue doit être inclusif et sincère. Parce que je dois dire ici, bon, quand vous aviez parlé de la qualité du médiateur, mais nous devons dire, tous Congolais, nous sommes là, depuis Doha, depuis Washington, nous ne pouvons pas dire que ces médiateurs ne sont pas neutres, mais les Congolais continuent à attendre le retour de la paix, et qui n'est pas toujours là. Et donc, je dois aussi souligner ici que les Congolais continuent malheureusement à vivre les méfaits et de la défaillance de l'État congolais, sur tout le plan, mais maintenant, comme il y a la guerre, ce qui est en évidence sur les plans sécuritaires. Donc, le pays a reculé. Le COREP, quand nous avions pris l'idée de créer le COREP, on était beaucoup plus préoccupés par les questions de bonne gouvernance. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous devons parler du retour de la paix, qui devient la problématique au premier plan, et la bonne gouvernance devient et revient maintenant au second plan. Et donc, tout ce que nous demandons, que le dialogue soit inclusif et que ce soit cette fois-ci un dialogue sincère. Dans la sincérité, nous pensons que dans cette sincérité, qu'on parlera des causes profondes. Parce que jusque-là, nous attirons toujours l'attention de la société civile pour dire la société civile doit être là, ouvrir l'œil et le bon, ne pas céder aux caprices de nos politiciens, chercher à comprendre réellement, hein, parce que c'est elle qui représente la population congolaise, veiller vraiment aux intérêts de la population congolaise. Donc il ne faudrait pas que la société civile laisse cette occasion seulement aux politiciens. Ok? Le premier bénéficiaire de la paix, c'est le peuple congolais. Et au-delà du dialogue, nous devons le dire ici, si aujourd'hui nous parlons dialogue, c'est parce que c'est seulement le schéma, ok, qui se montre comme si c'est le schéma qui peut nous ramener la paix. Mais le peuple congolais est fondamentalement d'abord intéressé par le retour de la paix. Hein? Question de dialogue, le peuple congolais veut la paix. Si ceux qui se battent, si les belligérants pensent qu'au-delà du dialogue, il y a un autre mécanisme par lequel ils peuvent ramener la paix au peuple congolais, vraiment, ils peuvent le faire. Mais si ce mécanisme-là n'existe pas, alors qu'ils ne perdent pas le temps, qu'ils aillent vers le dialogue inclusif et sincère, et qu'ils touchent toutes les causes profondes, toutes les questions fondamentales. Parce qu'on ne voudra plus, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, qu'on revienne encore à la case de départ, encore des réclamations, encore des plaintes, encore des revendications. Et surtout, dire au pouvoir d'éviter la frustration.
Merci, c'était Milengezi, merci d'avoir participé à notre émission de ce jour. Hamza Rutega, nous disons également merci.
Merci, Expedi.
Joseph Mushengero, merci d'être venu aujourd'hui.
Merci, Expedi.
Blaise Maseka, vous également, nous disons merci.
Merci, et j'annonce que l'exercice citoyen des élites du Kivu va se poursuivre sur nos sénateurs et nos députés provinciaux.
Exactement 10h juste à Bukavu, ce dimanche 16 août 2026. Jean-Claude Ndage a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expedi Kialou. Nous compatissons avec la famille du directeur Thaïs Bagoula qui a perdu sa maman au courant de la semaine. Elle a été inhumée et elle repose désormais en paix. Nous finissons donc avec ce message qui appelle les parents, un message
qui est libellé de la sorte. La direction de la section secondaire du CSLI invite tous les candidats ayant déposé leur demande d'emploi à son sein de bien vouloir s'y présenter à partir de ce dimanche 16 août pour consulter les tableaux d'affichage de candidature retenues au test d'embauche prévu le lundi 17 août 2026 à 8h précises. Chaque candidat devra se munir de sa pièce d'identité et s'habiller en tenue de ville de respect des leurs. Et capitale pour la direction du CS Elite, Séraphin Tchigondo signe ce communiqué dans l'émission de ce jour. Passez donc un excellent dimanche chez vous à la maison. La rediffusion de cette émission interviendra demain lundi à partir de 19h30. Merci pour votre attention. Au revoir.
Merci. Merci.